Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue à ce quatrième épisode du Nerdverse Podcast. Et comme promis lors du dernier épisode, Rudy est de retour avec nous. Rudy!
Je suis de retour!
Après une longue absence de un épisode.
Oui, bien, de toute manière, je ne pouvais pas vraiment participer à cet épisode de Justice League parce que je ne l'avais pas vu encore. Mais c'est fait depuis. Alors, je suis maintenant Snyder vacciné.
C'est un bon terme. Ça marche l'air courante, c'est sûr. Mais parlant de ça, on va parler dans les spoilers, évidemment, parce que c'est en début d'émission. Mais vite fait, en quelques minutes, c'est quoi que tu as pensé de cette
Justice League? Vraiment, de j'ai pas regardé aucune critique pour pas avoir de nuages devant moi quand j'allais voir ça. J'avais pas beaucoup d'attentes, comme je pense que je l'avais mentionné un peu auparavant, mais j'ai adoré ça. Vraiment, c'était une très belle revue. Et je suis d'avis avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de fans, je crois maintenant, qui devraient continuer à voir finalement le troisième film qui était supposé d'avoir. Moi, je crois qu'il devrait avoir un Batman Ben Affleck. J'ai adoré chaque personnage, tout ce qui a été rajouté. C'est vraiment, là, pour moi, là, c'était excellent. C'est ce qu'on aurait dû voir dès le départ. Autant que j'ai fait écouter ça, on l'écoutait avec ma femme puis mes enfants. Mes enfants ont adoré. Ma femme, elle a tellement aimé ça qu'elle a dit ben, « Pourquoi on commencerait pas de Flash? » Je sais que tu es un grand fan de Flash. Alors, on a recommencé l'émission de Flash. On est déjà rendu à la moitié, un peu plus de la moitié de la première saison là, en quelques jours. Ça m'a redonné là, la piqûre DC. Vraiment, puis c'est ce qu'on avait de besoin, je pense. C'est juste à savoir, est-ce qu'ils vont continuer avec ça, avec cette ère d'aller-là, ça serait vraiment intéressant, ou c'était un one-shot deal, parce qu'avec toutes les histoires qu'il y a eu, et même les commentaires qu'on a eu de Gail Gadot dernièrement, qui sont sortis dans les médias dernièrement au point de vue du niveau du climat toxique du film. Ouais. Je ne sais pas si ça va aller de l'avant, mais ça serait vraiment le fun de voir où ce que Snyder s'en va avec ça. Vraiment, comme tu dis, sans rentrer dans les spoilers, parce qu'on pourrait commencer à en parler longtemps, c'était fantastique. C'était l'humour, la noirceur, etc. C'était très différent de l'univers Marvel, mais à la fois aussi très, très satisfaisant.
Non, je suis très, très d'accord avec ça. Puis une chose que j'ai pas parlé dans l'épisode 3 du podcast quand je parlais du film, puis je pense que c'est important de faire un mini-retour, puis évidemment, j'irai pas dans les spoilers là-dessus, là. Mais tu parles des personnages, comment est-ce qu'ils ont été bien développés, puis tout ça. Puis je pense qu'un, en tant que tel, qui est le, excuse mon anglicisme, mais le stand-out, si on veut, du film, pour moi, c'est Cyborg, c'est Ray Fisher.
Totalement.
Puis de voir à quel point il était laissé de côté, littéralement, dans le film original. Puis là, tu vois ça.
C'est
là,
incroyable.
Tu comprends un peu. Ben oui, puis tu comprends pourquoi il y avait de la frustration de son bord. Puis il y a d'autres choses, là. Je comprends qu'il y a beaucoup d'autres choses qui sont arrivées. Mais de ce côté-là, de voir sa frustration, de dire comme... Lui, il a filmé toutes ces scènes-là. Puis les acteurs, là, faut prendre en considération qu'ils ne savent pas là, ce qui se passe au montage, puis tout ça. Fait qu'eux, ils filment des scènes. Puis évidemment, il y en a qui verront pas la lumière du jour, qui ne feront pas le final cut, si on veut. Puis lui, là, quand il a dû voir la version de Justice League de 2017, il a dû faire comme « C'est quoi ça? »
c'est incroyable. Je comprends pas la différence entre la version originale puis la version de Snyder, à quel point l'histoire est différente, mais à quel point aussi il manquait de Cyborg, puis l'importance de Cyborg dans ce film-là est incroyable.
Ah, il est important, là.
C'est important. Ah oui, ben oui. C'est fou, là. Si tu prends les autres personnages, il n'y a aucun autre personnage qui manquait autant de scènes que Cyborg. C'est juste... Puis, comme tu dis, il est plus qu'important. C'est quasiment... Ça tourne autour de lui, à quelque part.
Il est primordial au déroulement. Puis encore là, on va pas en détail pour les spoilers puis tout ça, mais ça passe par lui. Comment je peux expliquer ça? En fond, la façon de passer à travers ça, c'est il fait partie de la clé, il fait partie de la solution, tu sais, puis pas juste lui, évidemment. Je pense que le film fait une belle un beau travail
une
de
belle
mettre en
distribution.
force sur le travail d'équipe. Ouais, c'est exactement comme c'est beau de voir comme chaque personnage, à quel point ils sont bien développés. Puis de voir à quel point ils ont tout leur rôle. Quand même Aquaman, que je trouve, c'était probablement le personnage des six qui avait une moins grosse différence entre les deux. Il y en avait une quand même, mais la différence était un peu moins grosse. Ça change pas le fait que dans le contexte général du film de 4 heures, on voit la différence, à quel point que c'est énorme, puis à quel point que son rôle y ressort. Puis sans aller en détail de Flash aussi, son rôle il est fantastique
Oui, puis
dans cette version-là, là.
quelques petites additions qui étaient intéressantes pour un fan
Oui.
dans le film, des petits caméos de personnages que je trouve qui ont été peut-être moins bien développés, à mon avis, en tant que fan, là, parce que j'aurais aimé peut-être savoir pourquoi certains personnages étaient là ou pas. Puis vous allez comprendre assez vite pour ceux qui vont l'écouter. Mais ma femme me posait des questions des fois, c'est qui ça, c'est quoi ça? Il y a peut-être juste des petites choses comme ça qui ont été incluses que peut-être n'étaient pas nécessaires ou peut-être que Snyder aurait voulu peut-être développer un peu plus,
Et
qui
voilà,
faisait
c'est
pas,
ça, c'est ça.
ouais, qui faisait peut-être pas beaucoup de sens, mais c'était le fun quand même de le voir. Ça l'ouvre la porte justement à une possibilité, à de l'espoir. Puis je pense je te parlais l'autre jour par texte, je te disais pourquoi qu'il n'y a pas. Ça, je pense qu'on pourrait peut-être explorer ça éventuellement dans un épisode là, où il y a moins de contenu là, dans la sphère médiatique, mais les romans. Pourquoi qu'il n'y a pas de roman? T'sais, pourquoi Snyder pourrait sortir un roman de sa vision de ce qui pourrait être une suite à ce Justice League-là? Ça pourrait être super intéressant pour les fans, pourrait être un autre marché, mais on n'en voit pas beaucoup des romans de super-héros. Alors, peut-être quelque chose à explorer dans le futur, mais moi, personnellement, j'espère que ça va continuer. J'espère que ça va avoir assez attiré de fans pour me remettre sur les rails cette série-là. Cette vision-là, c'est sûr que c'est mélangeant là, avec les différents univers et tout, parce que fait déjà partie un petit peu là, de l'univers télé, l'univers du film, c'est les Terre 1, Terre 2, ou, peu importe, là. Fait que c'est mélangeant pour des gens qui s'y connaissent pas beaucoup, mais ça pourrait être vraiment intéressant si c'est fait d'une bonne manière, un petit peu comme que Marvel est en train de l'apporter en ce moment au grand écran et au petit écran, là, où maintenant on n'a plus trop de petits écrans, là, ils sont quand même assez gros, mais, mais si sont capables de trouver un moyen d'apporter ce multiverse-là dans DC, puis de faire cohabiter, que ce soit Pattinson en Batman avec Ben Affleck en Batman et tous les autres, là, que ce soit Barry Allen de la télé avec Barry Allen du film, ça pourrait être vraiment intéressant. Ça pourrait vraiment créer quelque chose de très, très, très sympathique, puis d'amener une nouvelle clientèle à DC qui est peut-être en perte de vitesse là, comparé à Marvel, qui fait un excellent travail en ce moment.
Ouais, puis je pense qu'on va parler beaucoup de Marvel dans les prochains épisodes, c'est sûr, parce qu'ils prennent toute la place avec, comme tu l'as dit, autant les séries télé, puis là, ben finalement, on va reparler un peu plus tard, mais les films, là, c'est officiel, on va voir les films qui vont sortir au cinéma, sur grand écran. Ça commence en juillet avec Black Widow, puis bon, en tout cas, comme je dis, on va en reparler un peu plus tard,
Ouais.
mais tu as mis un point intéressant, puis je vois une petite chose là-dessus, une petite anecdote là-dessus aussi, c'est quand tu parles de multiverse, on parle de DC versus Marvel, puis c'est intéressant ce que tu as dit, parce que ça peut être mélangeant pour plusieurs personnes, c'est sûr que les fans comme nous qui suivent ça de très près, puis tout ça, puis qui lit tout là-dessus, que ce soit sur Twitter, les médias sociaux, les comic books, quoi que ce soit, on a un bon background, mais sinon, pour la plupart des fans, dans le fond, il y a beaucoup de choses. Fait que c'est important de mettre ça là, quand même. Autant qu'on veut plaire aux méga fans, on veut aussi s'assurer que les fans, le fan base général, si on veut, apprécie ce qu'ils ont devant eux. T'sais. Puis, que ce soit à télé ou que ce soit au cinéma. Puis, je pense qu'à un moment donné, on va parler de ça sur le podcast, de comparer les deux Multiverse, que ce soit Marvel versus DC, pour essayer ou peut-être d'expliquer un peu où ce qui s'en va avec ça, parce que c'est très différent. C'est comme DC, tu l'as bien dit, tu sais, on parle de Terre 1, Terre 2, Terre 3, etc. Puis, dans le fond, tous les films existent dans le Multiverse, puis ils peuvent, s'ils décident de les mettre ensemble à un moment donné, ils peuvent le faire, sinon oui. Ils peuvent les mettre de côté. Puis, ce qui est intéressant, parce que tu te dis, OK, comme exemple, le film de Robert Pattinson, de Batman, ben, il va pas être relié à The Suicide Squad ou ben, au Justice League de Zack Snyder. Puis, ça fonctionne bien. Puis, c'est la façon qu'ils ont trouvé de faire leur propre projet indépendant. Mais en même temps, tu as le fan qui va aller voir ça, puis qu'après ça, il va aller voir le film de The Flash, puis qu'il va voir et Michael Keaton et Ben Affleck qui vont les deux jouer Batman dans ce film-là.
Ah, c'est...
Ils vont dire, coudonc, on vient de voir trois Batman dans la même année.
Exactement, comme petite c'est... anecdote comme ça, puis ma femme est pas très loin, alors peut-être qu'elle écoute, peut-être qu'elle est en train de dormir aussi à cette heure-ci, mais quand on s'est rencontrés, elle m'a dit cette phrase, « Tu sais, moi, je connais tous les super-héros. » Là, j'ai comme, ah oh, oui, j'ai comme, oh, my God, j'ai trouvé la perle rare, c'est fait, je vais la marier. Finalement, il s'avère qu'elle connaît juste Wolverine, Cyclope puis Phoenix. Alors, elle connaît les X-Men des années 90. Mais tout ça pour dire, à revenir à aujourd'hui, que lorsque elle a vu, elle voulait commencer The Flash, et puis elle, dans sa tête, Barry Allen serait le même acteur. Puis elle connaît pas vraiment beaucoup les films par cœur comme nous on les connaît. Et qu'en arrivant devant l'écran, puis commencer la saison de Flash 1, est comme, mais pourquoi c'est pas le même acteur? C'est la réaction normale, je pense, de beaucoup de gens. Et puis, absolument. À l'inverse, elle a pensé que Justice League, c'était venu avant, mais c'est venu après. Fait que moi, personnellement, j'aurais préféré avoir, je ne connais pas son nom par cœur, Barry Allen de la série télé, parce que j'adore cette série-là, dans le film de Justice League. Je ne dis pas qu'il ne fait pas un bon job, l'acteur, dans Justice League, mais j'aurais aimé ça. Mais là, à l'inverse, après ça, lorsqu'on va arriver dans la, je pense, 4e, 5e saison de DC à la télé, Barry Allen de Justice League va rencontrer Barry Allen de DC à la télé
et voilà.
Dans Infinite Crisis on Earth. Et là, ça mélange tout le monde parce que, justement, t'as des tonnes de héros de toutes sortes d'univers. Je pense que t'as les trois Superman, deux Superman différents, etc. Fait que c'est sûr que ça devient mélangeant pour le commun des mortels. mais c'est, comme tu dis, c'est leur manière de dire, de pouvoir toujours recommencer, de recommencer l'histoire. Moi, je compare souvent un petit peu le multiverse à, exemple, comment ça s'appelle encore? J'ai un blanc de mémoire. Les soap operas américains, là, moi, pas... Les Feux de l'amour. Les Feux de l'amour.
Young
là,
and the Restless, c'est
hein, Young and the Restless. Hein, combien de chums, puis d'enfants, puis de petits-enfants, puis de genre de... Je pense qu'ils en ont des vingtaines, puis là, ils trouvent qu'il y a un enfant adopté. Ils sortent, c'est le même concept. Même chose, sauf dans un univers fantastique. Fait que, tu sais, il faut qu'ils trouvent des manières de faire durer ça pendant des années, sinon ça n'aurait pas eu la longévité qu'on connaît aujourd'hui. C'est certain qu'aussi, moi je m'attends un jour pour Marvel d'avoir un nouveau Iron Man. Là, tu sais, à un moment donné, ça pourrait arriver. Là. On ne sait jamais, dans 20 ans, ils vont vouloir faire un reboot. Ça pourrait. Est-ce qu'ils vont continuer le même univers tout ce temps-là? Ça serait le fun. Sauf qu'à un moment donné, il va falloir qu'ils trouvent des nouvelles idées. Là. Fait que c'était ma petite anecdote par rapport à X-Men. Et...
Ben, parlons de Young and the Restless un petit peu. Non, on couvre vraiment tout sur ce podcast. Mais on va attendre une couple d'épisodes encore. On ne veut pas perdre du monde tout de suite.
Imagine un podcast. Je suis sûr que ça existe déjà, un podcast là, je m'excuse déjà pour du stéréotype, là, mais de madame qui parle de Young.
Il y a des podcasts pour tout, pour tous les goûts. C'est ça la beauté du podcast, c'est que tu peux parler de ce que tu aimes, puis tu as une audience quelque part.
Puis moi, comme je dis toujours à ma femme, justement, je dis, elle aime beaucoup les livres historiques d'amour, etc. Je dis, ben nous, les super-héros, c'est un petit peu comme lire un livre historique d'amour. C'est juste d'autres contextes. C'est toujours la même rhétorique. On parle de problèmes humains qu'on retransmet dans un contexte qu'on apprécie, tout simplement.
Absolument, j'aurais pas pu mieux dire. En tout cas, ben, ça couvre très bien ce petit résumé-là de Justice League. Fait qu'on va aller, dans notre gros sujet, si on veut. Bon, on a deux gros sujets qu'on va parler aujourd'hui. On va commencer un peu avec L'état du box-office. Puis quand je dis l'état du box-office, parce que là, ben, je pense que j'ai pas besoin de rappeler à personne qu'on est dans une pandémie. Puis ça a fait un an le mois passé, en mars. Et si on se rappelle, si on recule d'un an, il n'y avait absolument rien qui sortait. Puis pas juste au cinéma, la télé non plus. Tout avait été mis en hold. Je me rappelle même Walking Dead, la dernière épisode n'avait pas sorti de la finale de la saison 10 parce qu'il n'avait pas pu terminer le post-production, si on veut, le travail de post-production sur l'épisode. Donc,
deux épisodes, excuse-moi, Danick, que j'ai écouté dernièrement, pour ceux qui aiment Blacklist ou encore New Amsterdam, même chose. Blacklist, eux, ils ont refait un épisode en genre de dessin cel-shade un peu, justement, parce que en plein dans la pandémie, ils ont été obligés d'arrêter tout parce que les tournages se faisaient à New York. C'était dans le gros, fait que c'est pas... ça s'est vu un petit peu partout, là.
Puis on voit aussi, comme tu parles de New Amsterdam, justement, comme toutes ces émissions-là qui couvrent les hôpitaux, les médecins, puis tout ça, les infirmières, tu sais, infirmiers, tout ça. Puis tu as New Amsterdam, tu as The Good Doctor aussi, qui est très populaire. Puis évidemment, Grey's Anatomy, qui est un autre...
New Amsterdam, c'est très bon.
Ouais, ben moi et ma femme, on écoute et New Amsterdam et The Good Doctor. Grey's Anatomy, il y a juste trop de saisons, fait qu'on ne peut pas s'embarquer là-dedans, là.
Un autre podcast.
Mais ouais, c'est ça. On va partir à un autre podcast.
As-tu vu la chirurgie qu'il a faite? Très réaliste.
Non, ouais, c'est exactement. Mais tout ça pour dire que dans ces épisodes-là, tu sais, ça démontre juste qu'il y a un impact sur tout, dans le fond. Tout le monde de Hollywood a été en stand-by, a été gelé. Mais dans le fond, comme le monde au complet en général, pour tout, là, tout a été arrêté. Mais là, comme finalement, un an plus tard, je dirais peut-être dans les derniers deux mois, on a commencé à avoir un peu une lumière au bout du tunnel, si on veut. Puis les studios ont commencé à dire, ben là, à un moment donné, il faut faire de quoi. Puis il y a eu l'espoir avec les vaccins qui ont commencé, évidemment. Puis là, on voit, je dirais surtout aux États-Unis, où ce que les vaccins sont très avancés. Puis les studios, tu vois là, qui bêtent fort là-dessus. Là, t'sais. Fait que là, on commence à voir des films qui sont non seulement qui n'ont pas été repoussés, qui vont sortir, mais on voit aussi des films qui sont devancés. Un exemple de ça, c'est A Quiet Place 2, dans le fond, qui était supposé sortir en septembre. Ben, il était supposé déjà être sorti, évidemment, depuis plusieurs mois, mais il avait été repoussé en septembre 2021. Puis là, il va sortir au mois de mai cette année. Fait que ça, c'est vraiment une occasion pour faire comme garde. On y va... À moins qu'il y ait un autre délai dans les prochaines semaines. Ça, c'est très, très possible. Mais c'est ça qui arrive. Puis on parle de Fast and Furious. Fast 9 aussi, qui est un bon exemple. Avait été le premier film, je pense, l'année passée, a été repoussé d'un an au complet. Puis là, le monde était comme, ben voyons donc, repousser ton film d'un an, ça n'a pas de bon sens. T'sais. Le monde ne comprenait pas. Puis finalement, ils ont Universal, qui est le studio qui s'occupe de cette franchise-là, ben, ils ont vu juste, là, ils ont dit non, on repousse ça d'un an, puis let's go. Puis là, c'était supposé être sorti en mai cette année, puis c'est repoussé un mois en juin. Puis là, ben, la promotion est recommencée. D'ailleurs, on est supposé avoir une nouvelle bande-annonce. Là, on est mardi soir, on est mardi le 13 avril, j'ai fait oublier la date. Ben, demain, il va y avoir une bande-annonce pour ça qui va sortir, donc la promotion rembarque. Tu sais.
Quiet Place 2, c'est le film avec Reed Richards, hein, c'est ça?
Exactement. Avec le aerospace engineer qu'on n'a toujours pas vu dans WandaVision d'ailleurs. Puis on va en reparler un peu plus tard dans l'épisode. On cherche toujours l'ingénieur.
Qui a gagné beaucoup en estime. J'ai eu beaucoup d'estime avec lui, avec cet acteur-là depuis la pandémie. J'ai un blanc encore de mémoire. My God, je ne sais pas ce qui se passe ce soir parce qu'il est là.
Ça doit être l'heure. Soir. Il est 9h là.
Alors, c'est qui, là? On parle de... J'ai un blanc, s'il vous plaît. Hey, je m'en veux.
John Krasinski.
Oui, exactement. Alors, Monsieur Office, de Jim The Office.
Exactement.
Il a fait Some Good News, que je conseille à tous si vous avez besoin de chaleur humaine, qui était une série le début de la pandémie, qui faisait à la maison. C'était super beau, beaucoup de belles collaborations. Et c'est une série aussi qui va se retrouver, que le concept a été repris et va avoir juste des bonnes nouvelles dans cette émission-là. Alors, c'était une petite parenthèse sur John Krasinski que j'aime beaucoup.
Non, une très belle initiative. Puis il y a plusieurs acteurs, plusieurs Puis autant au Hollywood qu'au Québec, que ce soit les humoristes, que ce soit différents acteurs, ils ont trouvé des initiatives pour, se tenir occupé, évidemment, mais aussi pour entertainer les fans qui étaient à la maison. Puis dans les premiers mois, qu'on ne savait aucunement à quoi s'attendre, qu'on n'osait rien faire, puis tout ça. Là. Puis là, après un an, les choses sont un peu différentes, même si techniquement, on est au même niveau. Mais bref, c'est des choses qui changent comme ça. Puis on voit que les délais sont de plus en plus rares. Puis je pense pas qu'on va voir des délais majeurs encore. Il y en a eu quelques-uns, mais je pense que là, ce qu'on a, c'est ce qu'on va avoir. Puis s'il y a des délais, c'est probablement plus réactif, parce qu'on va se dire les vraies choses. À partir de cet été, il y a beaucoup de films qui vont sortir au cinéma entre juillet puis décembre 2021. Je pense qu'il y a un film de gros budget, si on veut, presque à chaque semaine, parce que tout a été mis là, tu sais.
Ils n'ont pas le choix non plus.
Ben c'est ça, exactement. Ils n'ont pas eu le choix. Puis je pense que Mission Impossible a été repoussée en 2022. Puis même Top Gun est rendu en novembre. Fait que c'est des choses comme ça où ce qui sont comme, garde, on va être plus réactif, voir comment est-ce que ça va, puis comment que le box-office va, puis tout ça. Puis on va essayer de se trouver un petit spot où ce qu'on a peut-être un 2-3 semaines de un peu plus tranquille, où ce qu'on peut vraiment comme... on peut avoir notre moment à nous autres, puis évidemment, eux autres, on va se dire les vraies choses. Le but, c'est de faire de l'argent. C'est pour ça qu'on fait des films qui coûtent aussi cher. Puis, parlant justement de box-office puis d'argent dans tout ça, un phénomène qui était quand même intéressant, qui est arrivé pendant la pandémie, puis qu'on n'est pas porté à penser, c'est que si on revient avant la pandémie, les deux box-office au monde, les deux plus gros, si on veut, c'était les États-Unis et le Canada, parce que quand on parle de box-office domestique aux États-Unis, ça comprend le Canada, et la Chine. Mais là, avec la pandémie, la Chine, eux, ça fait quand même plusieurs mois que leur box-office est revenu plus normal. Je ne sais pas jusqu'à quel point si les salles là-bas sont ouvertes à 100% ou quoi que ce soit, mais
ils n'ont pas de cas, ils n'ont pas de cas, voyons.
Non, ben c'est ça. Écoute, si on regarde les chiffres, puis tout c'est ça, il n'y a pas de cas.
Bon, j'étais ironique un petit peu.
Oui, un peu de sarcasme. Mais garde, on va pas entrer dans la politique là, non. Surtout pas à cette heure-là. Moi, la politique, non, on va se faire 7h30, là, ça marche.
Excuse, Danick, il y a un char de police, il est rouge, c'est bizarre. Hey, il frappe à ma porte. Non, ça...
Bon, ben on va peser pause, on va revenir demain, ou pas.
Parce que, voilà, alors, oui. Rudy en direct d'une prison chinoise.
Ouais, c'est ça. Mais non, en tout cas, puis c'est là, finalement, la Chine a pris le dessus. Fait qu'en ce moment, le box-office numéro un depuis plusieurs mois, c'est la Chine. Puis évidemment, il y a beaucoup de films chinois qui ont pris le dessus. Mais même les films américains font plus d'argent en Chine qu'aux États-Unis en ce moment. Puis la raison est simple, puisqu'il y a encore beaucoup de cinémas qui sont fermés aux États-Unis. Il y en a énormément qui sont fermés au Canada. Puis les cinémas qui sont ouverts sont à capacité réduite. On parle de 30 à 50 tout dépend, 25 à 50 tout dépendant des places, tout dépendant des États. Puis le meilleur exemple de ça, récemment, c'est Godzilla vs. Kong. D'ailleurs, un de nos prochains épisodes, on va parler. Là, je ne sais pas si toi, tu l'écoutais, Rudy. Moi, j'ai eu la chance de le voir.
Pas encore.
On va pas. Ouais, c'est ça. Fait qu'à un moment donné, on en reparlera ensemble. Offline, si on veut, puis on se fera un petit épisode. Je pensais justement faire un épisode, exemple, Godzilla vs. Kong, Immortal Kombat, qui sort la semaine prochaine.
Oui, oui.
Puis on pourrait faire un double review, si on veut, une double revue de ces films-là. Puis,
parfait.
Juste vraiment faire changement un peu, puis on va avoir bien du fun, parce que c'est deux. En tout cas, pour Godzilla vs. Kong, c'est très divertissant. J'ai mes petites réserves, si on veut, sur certains aspects du film, mais overall, le but que ça devait achever.
On s'entend, on s'entend que quand tu regardes un Godzilla ou un King Kong, c'est pas pour les personnages humains. Hein? Fait que...
Ben, c'est ça. Mais moi, quand même, je recherchais ma présence d'Oscar. Tu sais, un acteur qui me sorte une performance digne d'un Oscar, puis je ne l'ai pas trouvé, puis j'étais extrêmement déçu.
T'es bien naïf.
Ben, c'est ça. Écoute, on m'a vendu le film que c'était le meilleur de la série. J'ai dit, c'est sûr et certain. Là. J'ai dit qu'il y a un acteur là-dedans. Là. Je ne sais pas si c'est Kong ou Godzilla, mais l'un des deux qui va surprendre. Mais tout ça pour dire que c'était très bon. Puis, mais là, ce qui est le fun avec ça, c'est que le film fait de l'argent malgré tout. T'sais. Puis là, on ne rentrera pas si c'est la bonne chose ou pas d'aller au cinéma, puis ce débat-là, on n'est pas là pour ça. Mais juste les statistiques en tant que telles, si on regarde en date du 11 avril, le film a fait 357,8 millions au box-office mondial. Juste pour comparer, si on veut, là, Tenet, qui avait sorti l'été passé, ben, je pense que c'était fin août, début septembre, là, au, toute sa dans le fond, le plusieurs semaines, même plusieurs mois qu'il était au cinéma, a fait en tout et partout 363,1 millions. Donc, là, on se parle deux jours plus tard, parce qu'on est 13 avril. Probablement que Godzilla vs. Kong a battu Tenet déjà au bout de deux semaines, tout simplement, tu sais. Fait qu'on voit une grosse différence. Puis si on regarde le box-office aussi, en Chine, il a fait 165,4 millions. Puis aux États-Unis, domestique, donc États-Unis et Canada, il n'a certainement pas fait grand-chose au Canada, là. Je pense qu'on a peut-être... sont presque tout fermés, nos cinémas.
C'est pas le bon moment, en ce moment.
Non, c'est ça, exactement. Mais il a fait 69,5 millions. Fait qu'on parle de un bon deux fois et demi, quasiment trois fois de plus en Chine. Fait que c'est sûr et certain que je pense pas que ça va durer éternellement. Je pense qu'à un moment donné, les États-Unis vont reprendre leur position numéro un au box-office. Mais c'est quand même intéressant de voir...
C'est intéressant. De voir les différents aspects. Puis, tu sais, ça nous amène à une question, à la prochaine question, qui était à quand le prochain film à faire un milliard de dollars? Puis,
c'est ça.
Là-dessus, je sais pas, c'est peut-être parce que, justement, on va pas rentrer dans le débat nécessairement de si c'est bon ou pas bon, mais moi, personnellement, me considère un corona anxieux à cause que je suis immunosupprimé, plus blablabla et plein de détails comme ça. Mm-hmm. Mais... ça va prendre quand même, personnellement, un petit bout avant que je sois vraiment à l'aise de retourner au cinéma. À l'inverse, regarde, on le voit actuellement ce qui se passe, puis les experts le disent, on risque de revivre des années folles. Alors, fait que ça se peut et très bien que les box-office battent des records incroyables. Peut-être pas en 2021, mais je te dirais peut-être plus en 2022. Selon moi, selon ce que j'entends aussi avec les différents experts, encore là...
Mais c'est quoi ton bet, Rudy, si je peux me permettre? C'est quoi, si tu parles de 2022?
Le prochain, selon moi, ça va être Spider-Man. J'ai un blanc de mémoire sur le nom. No Way Home. C'est pas Far From Home, c'est No Way Home. Moi, personnellement, je pense que c'est...
Exclusif, Rudy, c'est en 2021, ça.
Oui, c'est ça. Fait que c'est mais il est à la fin de 2021, par exemple. Fait que c'est pour ça
Je pense qu'il va faire le gros de son argent en 2022.
C'est ça. Fait que, mais je crois tout de même que ça risque d'être le premier film. Je pense que n'importe qui est assez lucide pour se dire qu'on en a encore pour quelques mois, même aux États-Unis, avant de retrouver une certaine normalité. Et don't get me started c'est quoi la nouvelle normalité ou quoi que ce soit, parce que j'ai mes propres opinions là-dessus. Mais pour qu'on retourne un petit peu dans cette sphère-là là, du milliard de dollars ou tout près, que les salles soient pleines, ça ne sera pas avant minimum l'automne aux États-Unis qu'on va voir ça, puis je dirais même l'hiver. D'après moi, bon, il va y avoir certains États comme au Texas justement qui, eux, contre vents et marées, même s'il y a des centaines de milliers de cas, laissent du monde venir voir le baseball quand même, quoi que ce soit. Ça leur fait pas peur. Exactement, Floride. Tu sais, il y en a plusieurs comme ça. Eux, sûrement, vont être dans les précurseurs là, d'avoir des salles pleines au cinéma. Puis les gens ont une culture pas mal moins... ont pas mal moins peur justement de la COVID, parce que quand je dis que j'ai des doutes, c'est plus justement au niveau des répercussions psychologiques de toute cette crise-là qu'on vient de vivre. Moi, je sais que j'en suis atteint. Ça va être très difficile pour moi, je crois, de retourner dans ce mode-là sans avoir l'arrière-pensée. Ça va arriver, là, c'est certain. Ça va être une adaptation. C'est à savoir à quel point la société en général va s'adapter. Puis je pense qu'un film, un film comme Spider-Man peut-être justement être un petit coup de pied dans le derrière pour des gens comme moi, pour faire comme, bon, mais c'est peut-être le moment là, de sortir de son sous-sol, de chez soi, du confinement, puis de dire, OK, je me retourne au cinéma, là, parce que ça vaut la peine, c'est un gros film. Parce qu'en ce moment, est-ce que ça me tente vraiment d'aller au cinéma pour aller voir Godzilla Kong Kong? Non, justement, on peut pas de un, ici à Gatineau ou à Ottawa, mais de deux, on peut le voir en vidéo sur demande, un peu comme le dernier film, Raya, que j'ai vu ici à la maison sur vidéo sur demande. J'ai payé, j'ai apprécié, j'ai adoré ça sur ma télé, belle télé 75 pouces à la maison. Regarde, maintenant, on a ça à portée de main. C'est ça qui va être intéressant de voir un peu comment que justement cette nouvelle normalité-là va s'adapter dans le monde culturel qu'on vit aujourd'hui. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on a été dépourvu de matériel à regarder, là. On parlait tout à l'heure de Invincible, le dessin animé là, du super-héros. On a eu The Boys, mm-hmm. on a eu Umbrella Academy, on a eu The Witcher, on a eu, puis là on parle des Marvel, on a Falcon, WandaVision, on a eu Mandalorian. On n'a aucunement manqué de contenu pendant la pandémie. Je pense que si quelqu'un s'ennuie...
La deuxième moitié, si on veut.
Oui, peut-être un peu, mais même encore
moitié,
là...
ça n'achetait pas grand-chose. Je te dirais jusqu'en septembre, c'était tranquille. Puis à partir de septembre, octobre, justement, je pense que Tenet, ça a été le film qui ont... Je sais pas si c'est une erreur ou pas, mais ils ont dit, nous, on va juste au cinéma. Ils ont vraiment réessayé de ramener les gens dans le cinéma. Puis certains vont dire que c'était un échec, d'autres vont dire que c'était un succès. Peu importe, je peux pas... Moi, j'ai pas la réponse à ça, mais je pense qu'à partir de là, il y a quand même eu au moins des différences. Il y a eu des... tu sais, nos fameuses émissions de l'automne, ils ont recommencé à sortir. Mm-hmm. Les compagnies se sont adaptées, ils ont recommencé à tourner leurs films, à tourner leurs séries. Tu sais, on a eu, à l'automne, on a eu les annonces. Même, ben, dans le fond, en septembre, on s'est fait annoncer que WandaVision va sortir au mois de janvier 2021. On savait que ça s'en venait. Puis là, on a eu d'autres dates de sortie par la suite. Mandalorian, évidemment, qui a sorti en fin octobre. Fait que je pense que c'est vraiment là que ça l'a débloqué. Mais moi, je me rappelle, les premiers mois de la pandémie, puis je parle pas juste de films, là, que ce soit les sports...
Les jeux vidéo, tout a été...
Ça a été complètement bloqué, puis avec raison, c'est correct. Mais là, au moins, on revient à ça, puis c'est le fun de voir, même si c'est loin d'être parfait encore, c'est le fun de voir au moins que... il y a un certain retour anormal, puis qu'au moins, même si on est encore en général chez nous, chacun chez soi, ben au moins on peut se tenir occupé avec ces choses. Évidemment, il y a plein d'autres choses aussi, mais là, nous on couvre ça sur le podcast, donc on parle de ça. Mais c'est le fun de voir ça aussi, tu sais. Puis justement, moi, quand j'écoutais Godzilla vs. Kong, c'était le fun, même si c'était sur ma TV, moi aussi, 60 pouces. Je suis désolé que c'est pas aussi gros que 75 pouces de télé, mais ça reste que je suis très satisfait. Mais de l'écouter en 4K aussi, de voir ça, j'étais comme, my God, ça, c'est tellement... même, tu sais, j'ai pas le surround sound, mais j'ai ma barre de son, fait que c'était amplement satisfaisant pour moi comme expérience de
t'as pas la madame fatigante en avant de toi ou le gars fatigant à côté de toi qui rit trop fort ou le jeune qui ouvre sa barre de chocolat à côté de toi, le popcorn mm-hmm. qui tombe par terre, les parents un peu insouciants qui amènent un enfant de 2 ans voir Godzilla Kong Kong.
Ah, c'est ça. Mais c'est pas pour lui, ça?
Ouais, c'est ça. Mais il y en a qui le font. Je sais pas. J'ai déjà vu ça.
J'en ai vu toutes les couleurs.
Oui. Puis, sauf que ça nous fait poser une question peut-être maintenant, où est-ce qu'on est rendu? Puis encore là, c'est peut-être c'était pas sur notre liste aujourd'hui, mais puis c'est peut-être un sujet qu'on pourrait regarder à un moment donné, plus en détail. Mais selon toi, est-ce que cette pandémie-là ne met pas en évidence le fait que c'est peut-être plus nécessaire de faire des films avec un budget de 500 millions? Puis là, on va parler de bientôt là, de Knives Out. Mais ouais, est-ce que ça vaut encore la peine aujourd'hui de mettre un budget de 500 millions de dollars pour espérer en faire 1 milliard. C'est un gros risque maintenant. Là. Tu sais, c'est comme ouvrir un restaurant. Je pense pas que j'aurais le goût d'ouvrir un restaurant aujourd'hui. Là. Ça serait, faudrait que ce soit bon en tabarnouche mon restaurant, qu'il soit spécial. Puis c'est peut-être là que je dis que Spider-Man est peut-être le seul film, mm-hmm. à mes yeux, à moi en ce moment, qui est assez gros, assez spécial, pour ramener les gens au cinéma sans en rien enlever aux autres, là, parce qu'on sait que Eternals va s'en venir, qu'il y a d'autres films. Black Widow va sûrement être très bon. Mais est-ce que, selon toi, ça vaut vraiment la peine d'avoir des aussi gros budgets que ça maintenant pour autant de films ou qu'ils doivent être plus sélectifs? En tout cas, des questions lancées. Ouais.
Ben, je pense qu'en ce moment, c'est une très, très bonne question. Puis je pense qu'en ce moment, comme nous, on s'adapte à la vie de tous les jours, puis comme avec cette nouvelle réalité-là, puis je pense à la même chose pour eux. Tu parlais de Knives Out tantôt, puis on va en parler un petit peu plus tard, mais c'est un très bon exemple de ce qui s'en vient avec la deal qu'ils ont avec Netflix, entre autres, puis de voir tous ces studios-là faire différents deals avec les cinémas, les services de streaming, entre autres. Puis un des exemples un des impacts que ça a, juste donner un exemple, Universal ont fait une deal avec AMC puis Regal Theaters aux États-Unis, entre autres, puis je suis convaincu qu'ils ont fait des deals avec pas mal tous les cinémas depuis ce temps-là, là. Puis dans le fond, ils ont rapetissé la fenêtre de, on appelle ça le theatrical window, si on veut, là, tu sais, la fenêtre d'exclusivité pour que les films y soient joués au cinéma. Puis dans les dernières années, c'était 90 jours, donc 3 mois. Tu sais, fait que tu avais ton film, mettons, qui sortait le 1er mai, ben après ça, tu avais le 1er août dans cette semaine-là, il sortait en on demand ou bien disponible pour acheter, que ce soit en Blu-ray ou bien que ce soit en digital. Tu sais. Mais là, la deal qu'ils ont faite avec eux autres, c'est que là, ça passe de 90 jours à 30 à 45 jours. Ça, c'est quelque chose qu'on avait avec d'autres studios qui ont fait aussi.
Intéressant.
On le voit aussi. Ouais, ben c'est ça, parce que là, comme exemple, Fast 9 qui s'en vient au mois de juin, ben techniquement, évidemment, c'est à la discrétion du studio et non pas du cinéma. Fait que le studio, lui, va dire, écoute, on a Fast 9 qui est en cinéma, ça va très bien, mais on va certainement pas le mettre 30 jours plus tard.
Oui, ils se donnent une fenêtre d'opportunité.
Exactement. Fait qu'eux autres, ils vont prendre le poussé plus proche du 45, puis peut-être même que dans certains cas, ils vont aller vers le 60. Mais moi, je pense que 45 jours, 30 à 45 jours, fait énormément de sens. On en parlait avant même qu'ils fassent la deal par rapport à ça. Puis moi, je pense que c'est une des répercussions à long terme, parce que je pense pas qu'on va revenir à une fenêtre de 90 jours, parce que si tu recules dans le temps, que des années, je dirais début 2000, la fenêtre était de 4 à 6 mois. Là. Comme je me rappelle, dans le temps qu'on allait louer un film aux vidéos, dans le temps que les vidéos étaient encore très populaires, ben on allait louer les films, puis ça prenait 4 à 6 mois. Là,
c'était long.
Après le cinéma, c'était très long. Là, puis plus le film était populaire, plus de temps que ça prenait. Puis on revient encore plus loin quand on parle des premiers Star Wars, que ce soit en fin 70, début 80, puis là, évidemment, j'étais pas au monde pour... Mais de ce que j'ai lu, c'était quelques années avant que tu puisses l'avoir en VHS. Dans ce temps-là, le VHS n'était pas, encore une fois, très, très populaire. Mais quand même, c'était extrêmement long. Fait que le cinéma, c'était la façon de voir un film. Puis plus qu'on approche là, plus que c'est rendu une expérience versus la façon.
Oui.
Puis je pense que les studios vont investir leur argent plus intelligemment, si on veut. Fait qu'une façon de faire un budget, tu parlais de 500 millions, c'est sûr qu'on compare, mettons, on va parler Infinity War puis Endgame, on parle d'un budget de 600 à 700 millions pour les deux films en tout. Fait qu'on parle d'un 300-400 millions, 300-350 chaque à peu près, ce qui est énorme. Puis je pense Justice League de Zack Snyder, si on rajoute le 70 millions qui est ajouté par-dessus, ben on parle d'au-dessus de 350 millions. Là, fait que c'est des très gros films. Ben, ces films-là pourraient être rentables parce que faut que tu fasses quasiment le triple de ça. Pour que ça soit vraiment rentable, que ça soit très. Que tu tires un bon profit de ça. Parce que il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Fait que tu regardes, juste un exemple, Netflix, je pense que c'est The Gray Man qui va... C'est un film, c'est les Russo Brothers là, qui ont fait justement Avengers Infinity War puis Endgame. Ils vont diriger ce film-là avec Chris Evans puis Ryan Gosling. D'ailleurs, j'ai très hâte de voir ce film-là. Mais c'est le premier film Netflix, pas au cinéma, là, juste Netflix, il y a un budget de 200 millions.
Wow!
Pour un film qui sera même pas au cinéma. Fait que comment est-ce que tu fais pour aller chercher ton argent avec 200 millions quand tu vas même pas le sortir au cinéma? Puis là, il y a un paquet de facteurs, puis évidemment, puis c'est tout ça, c'est le facteur principal, c'est les abonnements, évidemment, au service en tant que tel. Puis il faut que tu te bâtisses une crédibilité d'avoir des bons films originaux. Parce que Netflix, on va se dire les vraies choses, c'est hit and miss, comme on dit en anglais. Ils ont plusieurs bons films, ils en ont plusieurs de moins bonne qualité. Même, je dirais qu'en ce moment, c'est 50-50. Mais ça ne change pas le fait que c'est un très gros pari, tu sais. Fait quand mais tu parles de...
Ce qui est le fun, c'est que ça l'amène une diversité qu'on n'avait pas avant. Tu parlais des fameux clubs vidéo. ça n'existe plus, ou à peine. Vidéotron, il nous crierait après en ce moment, mais quand même, je vois plus grand monde aller là-bas. Puis, ça, si je me mets en perspective le cinéma de chaque pays aussi, on peut même prendre le cinéma québécois, où est-ce que sa place se trouve là-dedans? Est-ce que les cinémas à long terme ont encore leur place? C'est une autre grande question idéologique qu'on pourrait débattre. Mais même avant la pandémie, quand c'est rendu qu'il faut que tu payes 20$ par personne pour aller au cinéma avec un popcorn, moi j'ai 7 enfants, ça me coûtait peut-être là, 140$, 100 à 140$ aller au cinéma, puis ça c'est quand j'y allais pas un mardi, là, parce que une journée qui était moins chère. Fait que ça ouvre le débat à savoir où est-ce que cet argent-là va? Est-ce que maintenant, un 200 millions est mieux investi sur une plateforme comme Netflix? Ou est-ce que le film va rester là pendant des semaines et des semaines, puis va pouvoir attirer des nouveaux clients qui vont pouvoir le regarder n'importe quand? Il y a vraiment un gros changement qui s'opère et je pense qu'un peu comme le monde du travail, comme la société en général, la pandémie a juste accéléré de façon exponentielle ce changement-là. Puis tout ce qu'on voit en ce moment, toutes ces ententes-là, ces nouvelles façons de faire-là, c'est... Oui, le cinéma n'est pas encore parti comme que le Superclub Vidéotron, il n'est pas parti encore. Il va toujours avoir une clientèle pour ça. Mais comme un peu les Star Wars ont révolutionné les jouets et la marchandise relié à un film. Je crois que, exemple, le streaming comme Netflix, Apple TV, Amazon, etc., Hulu et tout, est en train de devenir justement une nouvelle vache à lait qui va amener encore plus d'argent. Oui, retirer des clients du cinéma, mais offrir d'autres possibilités. Parce qu'exemple, justement, on parle de Marvel, surtout ici, est-ce que WandaVision aurait été attirer autant de gens en version film au cinéma? Peut-être pas.
Oh non, pas du tout.
C'est ça, exactement.
Non, alors, c'est le semaine après semaine qui a créé l'engouement.
Exactement, ça. C'est ça. Fait que ouais. C'est vraiment intéressant de voir où ce que ça s'en va. À l'inverse aussi, tu as un film qui est quasiment de l'ancienne ère pré-COVID qui ne peut pas se voir, selon moi, sur Netflix, un film comme Dune. Un film comme Dune, selon moi, c'est fait pour être vu sur un immense écran dans un cinéma.
Absolument.
Ça, je suis d'accord avec Ryan, avec Denis Villeneuve. Il faut que ce soit
de Denis Villeneuve. Tout film de Denis Villeneuve.
Oui, c'est ça, exactement.
Que ce soit un blockbuster ou pas, c'est la façon qu'il fait ses films. C'est... Écoute, en tout cas, je suis 100% d'accord avec toi. Je pense que
j'ai accroché mon micro, mais c'est un débat super intéressant, puis je pense qu'on pourrait en parler pendant toute l'heure, ça finirait plus, mais ça nous laisse, dans le fond, c'est qu'on est dans un entre-deux en ce moment, puis c'est ça qui est comme un petit peu angoissant pour certaines personnes, intéressant pour d'autres, puis je pense qu'on peut se délecter de tout ce qui sort de cette... De ce melting pot en ce moment qu'on vit.
Non, puis dans le fond, là, on est gagnant dans tout ça. Là, parce que tu veux aller au cinéma, ben pas en ce moment, mais quand il va être ouvert, tu veux y aller, tu peux y aller. Tu veux pas y aller, tu peux attendre un mois et demi max, puis tu vas avoir ton film disponible chez vous. Non seulement ça, mais dans certains cas, comme Black Widow exemple, tu vas pouvoir l'écouter le jour même, chez vous, dans ton salon, dans ton sous-sol, sur ton téléphone, comme tes enfants. Peu importe. Tu vas pouvoir le faire à un coût, évidemment, à un coût supplémentaire dans le cas de Black Widow. Puis on le fait avec Warner Brothers qui ont fait pour tout leur film 2021. D'ailleurs, ils ont confirmé que pour 2022, ça ne sera pas le cas. Leur film va être strictement cinéma. Encore une fois, avec une fenêtre d'exclusivité un peu plus courte. Ils n'ont pas spécifié le nombre de jours, mais je m'attends que ce soit 1 à 2 mois maximum. Je pense que ça va vraiment tourner autour de ça. Mais dans le fond, nous, on est gagnant là-dedans. Là. On peut voir Godzilla vs. Kong le jour même chez nous. J'étais comme « wow ». Puis Mortal Kombat qui s'en vient la semaine prochaine, j'ai extrêmement hâte de voir ce film-là. Oui. Puis j'aurais pas pu le voir. Parce que oui, il y a plein de places aux États-Unis qui auraient pu le voir ou dans le monde, mais pas nous autres en ce moment.
Puis c'est la seule chose avec... Black Widow, si on continue un peu notre ère d'aller, qui est finalement sur Disney+, puis je pense que c'est pas la première fois que j'en parle, puis au risque de sonner négatif, je trouve que c'est juste, ça juste, De la part de Disney, ça a juste, et de Marvel, ça a juste mal été géré. Toute cette fenêtre-là de Black Widow. Ça aurait dû se décider bien avant. Bon, on recommence à avoir un peu de marketing, mais pas tant que ça. Il n'y a pas beaucoup de hype sur le film en ce moment, je trouve, personnellement. Don't get me wrong, ça a l'air vraiment bon. Je vais sûrement adorer, mais j'ai plus hâte à, exemple, Loki que Black Widow. Fait que c'est juste la manière que le marketing a été fait. Puis il y a peut-être une missed opportunity à ce niveau-là, mais c'est encore là, on peut leur donner le bénéfice du doute que, comme tout le monde en ce moment, qu'il était mélangé avec la pandémie. Mais finalement, ça arrive sur Disney+. On va pouvoir se délecter de la belle Scarlett bientôt. Puis ça, c'est tout le monde, comme tu dis, tout le monde est gagnant.
Non, c'est ça. Puis, tu sais, je sais pas si c'était trop tard de le faire. Moi, de ce que j'ai compris, je pense que c'est Kev, notre grand chum Kev, qui voulait... Ben oui, écoute, c'est... D'ailleurs, on te salue si tu écoutes le podcast.
Sait qu'il est francophone. Il voulait...
Évidemment, c'est Kevin.
Kevin, mais, il doit parler oui, Kevin, quoi, 12-13 langues. Dont le Wakandais.
Ouais, c'est ça. Il doit une couple de mots francophones, c'est sûr. Mais ça pour dire qu'il n'était pas d'accord, lui, pour l'avoir sur Disney+. Lui, il voulait strictement cinéma. Puis je peux le comprendre. Je peux comprendre le pourquoi. Puis c'est pas une question de s'adapter ou pas. Je pense qu'il voulait vraiment que ce film... Pas juste ce film-là. C'est parce que lui, dans le fond, là, c'est que s'il fait ça avec Black Widow... Mais il doit aussi faire ça avec les autres films, possiblement. Là. Fait que oui, là, si tu as l'option...
Oui, t'ouvres une canne de verre, là, un peu, en fait, en commençant ça. Là.
Ben, c'est pas que c'est une canne de verre. C'est que Marvel, comme je vais donner un exemple, t'as Black Widow en juillet, t'as Shang-Chi en septembre, t'as Eternals en novembre, puis t'as Spider-Man No Way Home en décembre, mais lui... Spider-Man est un peu plus touchy parce que c'est Sony qui s'occupe de la distribution, donc il ne peut pas aller sur Disney+. Fait qu'en partant, Spider-Man No Way Home, lui, il est strictement cinéma, peu importe. Mais là, c'est que... Là, tu as Black Widow. Dans le fond, le message que ça l'envoie, c'est qu'il n'y a plus de délai. C'est fini, là. Fait qu'on va aller un film à la fois. On va voir qu'est-ce qui va se passer en septembre. On va voir ce qui va se passer en novembre, puis etc. après ces films-là, tu sais.
Fait que de voir Black Widow... plus proactif.
Ben peut-être proactif, mais moi, je pense que la raison pour qu'il entend... Ben, honnêtement, je pense que le délai... Parce que le monde se posait la question, pourquoi qu'il a juste pas laissé le 7 mai puis le mettre sur Disney+, en même temps? Pourquoi qu'il a pas fait ça, mais le garder au mois de mai? Pourquoi le délai de 2 mois? Ben, la raison est très simple. C'est parce qu'en le mettant 2 mois plus loin, ben, t'as beaucoup plus de gens vaccinés aux États-Unis, t'as beaucoup plus de gens vaccinés dans le monde, fait que t'as beaucoup plus de chances que les gens aillent voir au cinéma que le louer sur Disney+. Puis... Je vais te poser une question vite fait, Rodi, mais dans ton cas, à toi, tu risques de l'écouter chez vous. Dans mon cas, à moi, je vais voir où ce qu'on est rendu proche de là, mais c'est certain que si je me sens assez à l'aise d'y aller au cinéma, je vais probablement y aller, sinon on va l'écouter de chez nous. Mais disons là, que je vais l'écouter au cinéma, là, je pense que c'est le 9 juillet que ça. Mais qu'est-ce que tu penses que je vais faire le lendemain, quand je vais arriver, comme le lendemain, là? Je vais quand même probablement payer 30$ pour l'avoir sur mon Disney+.
Oui, dans ton cas, oui.
Puis dans bien des cas. Je te confirme, dans bien des cas. Pas dans tous les cas. Il y a bien des gens qui vont faire un ou l'autre. Mais Marvel a une très, très grosse... beaucoup de fans, Marvel. Fait que, il y en a beaucoup. Puis je l'ai vu sur Twitter, ces médias sociaux. Il y en a beaucoup de gens qui ont déjà dit qu'ils vont faire ça. Surtout aux États-Unis, parce que là-bas, ils sont déjà eux autres en mode cinéma. Il y en a bien qui vont voir les films au cinéma déjà là-bas. Fait qu'ils vont le faire. Fait qu'eux autres, c'était comme, on maximise notre chance de faire un revenu au cinéma. Puis en plus de ça, on maximise une chance de faire un revenu sur Disney+.
Oui, c'est clair. Puis là, après ça... En mai, il y aurait eu beaucoup moins... Même s'il y a 66 millions de personnes vaccinées, c'est quand même juste une première dose. C'est quand même juste... Fait qu'il y a encore certainement une certaine nervosité pareille chez beaucoup de gens. Fait qu'en juillet, ils se donnent le plus de chances possible. Mais comme je dis, en espérant que ça soit proactif, que ça soit pas repoussé encore, que les prochains films commencent à rester en place. Là. Moi, c'est plus dans ce sens-là.
Je pense pas qu'il y a de délai.
Tu vas juste t'aliéner... Fans,
parce que ta canne de verre que tu parlais tantôt, tu as un très bon point. Ça, c'est pas moi qui l'ai ouvert, c'est eux. Parce que eux autres l'ont ouvert. Parce que eux autres, s'ils disent avec Black Widow, on fait Disney+, puis que tu arrives en août, puis il y a quelque chose, pour X raisons, ils ne sont pas confiants avec les box-office pour Shang-Chi au mois de septembre, tu ne peux pas repousser Shang-Chi. Il faut que tu le mets en septembre, puis tu le mets sur Disney+. Parce que si tu repousses Shang-Chi, mais pourquoi tu n'as pas fait ça avec Black Widow en juillet? Tu sais, fait que c'est est-ce que c'est parce qu'il y a quelque chose qui se passe dans Black Widow qu'on va devoir... qu'on va voir dans les séries ou dans les films.
Intéressant.
À l'automne, possiblement. Moi, d'ailleurs, je pense qu'il y a un certain lien avec Hawkeye. On pensait qu'il y avait un lien avec Falcon et Winter Soldier. Clairement, c'est pas le cas. Si oui, ils ont réussi à changer ça. Parce qu'on l'écoute en ce moment. Mais dans le cas de Hawkeye, qui est supposé sortir à l'automne, ben c'est possible qu'on ait des liens là. Peut-être, peut-être pas. Mais en tout cas, ça peut être une raison. Mais c'est sûr et certain que si tu as fait cette façon de faire-là, tu y vas un film à la fois, je trouve que c'est une façon intelligente d'approcher. Mais tu vas faire la même chose pour Shang-Chi si tu n'es pas assez confiant de tes revenus au cinéma. Si, par exemple, l'été, le box-office, il explose, puis comme tu disais tantôt, Rudy, que y a des semaines folles où ce que les gens, là, on voit le box-office qui remonte, ben là, ils sont comme eux autres, ils ont leur wild ace, là, si on veut, là, leur wild card. Ils sont comme, eh bien, on laisse au cinéma, c'est tout. Puis, il va sortir sur Disney Plus dans 30 jours. Ça se peut qu'il fasse ça aussi. Là. Il dit, bon, ben dans 30 jours, il est disponible. Ça allait payer 15$ au lieu de 30, ou peu importe. Puis,
Leur succès de leur plateforme est déjà assuré de toute manière. Fait que je m'inquiète pas trop pour Disney Plus. Puis, Disney en général, c'est clair.
Ils ont franchi 100 millions de
c'est ça.
D'inscriptions, d'ailleurs. C'est
exact. Je m'inquiète vraiment pas pour eux autres. C'est quelque part, je pense que c'est comme le Rudy naïf en moi qui se dit que ils font pas juste ça pour l'argent. Mais c'est clairement juste pour l'argent.
C'est pour l'argent et les fans ensuite.
Ben, c'est ça. Tu sais, les fans, c'est peut-être les acteurs, peut-être les créateurs, mais c'est certain que ceux qui gèrent le portefeuille et qui prennent les grandes décisions de quand que ça sort, etc., ben, eux autres, c'est vraiment plus une question de sous. Puis c'est comprenable. C'est comme au hockey, hein? C'est comme dans n'importe quoi. C'est business. It's all about business. Je pense que les deux, on a out. Peu importe la manière qu'on va le regarder, je pense que ça va être excellent. Puis je suis sûr que, comme n'importe quoi, une fois que ça va partir, les frissons vont arriver. Puis on va oublier tout ce petit débat-là qu'on vient d'avoir sur, ou qu'on a depuis quelques semaines, mois, sur la fameuse sortie de Black Widow.
Non, c'est ça. Puis un dernier petit point là-dessus, tu parlais justement de l'argent, les acteurs versus les studios, puis tout ça. Puis un point très important, c'est qu'à je dirais dernièrement, dans les dernières années, surtout Marvel, puis on le voit chez DC, Star Wars aussi, puis les gros films à gros budget, c'est que les acteurs principaux, dans le fond, leur salaire, il est basé sur un pourcentage des revenus. C'est comme ça qu'ils réussissent à maximiser le salaire de leurs acteurs sans que ça rentre directement dans le budget. En fond, c'est un peu ça la façon de faire. Puis l'acteur, l'actrice sont contents, ils font beaucoup plus d'argent comme ça, surtout si les films fonctionnent. Fait quand tu regardes, je vais donner un exemple, Wonder Woman cet hiver, et Patty Jenkins, qui est la réalisatrice, et Gal Gadot, l'actrice évidemment qui joue Wonder Woman, ben, eux autres, ils avaient été promis un certain montant d'argent. Là. Mais en cause qu'ils ont sorti ça au mois de décembre sur HBO Max, puis que les cinémas au mois de décembre ne faisaient pas fureur du tout, ben ils ont dû payer ce montant-là quand même à eux pour respecter leur deal, si on veut. Puis c'est ça qui est arrivé. Mais c'est sûr et certain que c'est la même chose pour Scarlett Johansson. Comme elle, dans son contrat, elle a quelque chose qui dit qu'elle a un pourcentage des revenus.
Je ne sais
pas c'est quoi le chiffre, je ne sais pas c'est quoi les modalités et tout ça, mais c'est certain que ça a joué dans la décision. C'est sûr et certain. Parce que sinon, là, il aurait été sur Disney Plus en novembre l'année passée. Puis on n'aurait pas attendu parce qu'ils auraient sorti leur film puis leur show dans l'ordre initial qui était supposé sortir. Peut-être des petits changements si élan à cause de la production. Mais bref, c'était juste mon petit détail là-dessus. Mais il y a tellement de choses qui rentrent en ligne de compte dans ça. C'est tellement plus complexe que juste ce que nous, on voit. Mais moi j'adore parler de ça. Je trouve ça super intéressant, ces détails-là. C'est un peu plus... Peut-être qu'il y a des gens qui vont dire, ah, ça, il y a beaucoup de chiffres puis tout ça. Mais c'est C'est une business au bout de la ligne. Puis c'est comme ça que ça fonctionne. Ils pensent aux fans, mais ultimement, il faut qu'ils fassent de l'argent pour donner ce que nous, on veut. C'est aussi simple que ça, puis c'est de même que c'est. Mais juste un petit vite fait avant qu'on passe, justement, on parle de WandaVision tantôt, on va en parler pour le reste de l'épisode. Mais un autre petit dernier détail, on parle justement des ententes, tout ça avec les streamings, les acteurs, puis les réalisateurs. Je parlais de Patty Jenkins, puis Gal Gadot, entre autres. Ben là, Netflix ont eu une grosse deal avec Knives Out, ben dans le fond, pour les deux prochaines suites de Knives Out. Je dis le film, je ne sais pas comment est-ce qu'il va s'appeler, parce qu'il n'y a aucun acteur original qui revient, sauf pour Daniel Craig.
Mais
Parce
je
que dans
pense
le
que
fond,
c'est
ça
quand
va.
même Knives Out de ce que j'ai compris, de ce que j'ai
OK.
lu, parce que j'ai adoré ce film-là. C'est vraiment, pour ceux qui ne l'ont pas
Ah, moi,
vu,
c'est
c'est une
superbe.
perle. C'est un bijou de film. Daniel Craig est fantastique. Chris Evans est superbe. Il n'est pas là tout le temps, mais c'est
C'était le
vraiment
rôle parfait
très.
à avoir
Ah!
après Avengers Endgame. C'était le rôle parfait à avoir pour se décrocher de son rôle de Captain America.
Incroyable!
C'était vraiment bien choisi. Jusqu'à date, je trouve c'est quelques bons choix qu'il a fait. On ne le voit pas trop partout, mais juste ça. Puis évidemment, il y
J'aurais
avait, je
pris son
pense, c'était
personnage
défait.
à la place de John Walker, par exemple. Mais bon, ça, c'est une autre.
Ouais, ben John Walker, en tout cas,
On va en
on en
parler.
parle dans 2 semaines.
Ouais.
C'est qui John Walker? Ah, je sais pas,
Ah.
vous allez savoir dans 2 semaines, c'est qui John Walker?
Mais oui, 500 millions pour les deux suites de Knives Out, peu importe, comme tu dis. D'après moi, il va falloir qu'ils gardent quand même un certain. D'après moi, le titre va rester. Parce que sinon, comment tu fais le lien, à moins qu'il donne un petit peu les Agatha Christie dans le temps, là, où toutes les films là, de détectives, là, Sherlock Holmes ou quoi que ce soit, il y a tout le temps des sous-titres, là. Fait que peut-être que c'est ça qui va se passer. Est-ce que c'est cher payé? Je pense que oui, mais encore là, parce que le premier film, c'est pas tout le monde qui sait c'est quoi. C'est encore, je trouve, un film qui est underrated. Les gens à qui je parle de ce
Pas tout le
film-là.
monde qui aimait ça.
Non, c'est pas tout le monde qui aimait ça, puis c'est pas été si populaire que ça. Dans le sens que je connais pas beaucoup de gens qui l'ont vu personnellement dans mon entourage. Je le conseille à tout le monde, honnêtement, par exemple,
Ah,
justement.
absolument. Non, non. Si vous l'avez pas vu, c'est un excellent film. Écoutez.
Fait que c'est beaucoup d'argent, je trouve, pour une nouvelle franchise. Je m'y connais beaucoup en jeux vidéo, puis c'est un petit peu la même chose dans les mondes de jeux vidéo. Lorsqu'on sort un nouveau IP qu'on appelle un Intellectual Property, c'est très, très, très risqué. Fait que Knives Out est très récent comme IP, comme nouvelle série. De là à payer 500 millions, c'est vraiment un gamble. Je pense que de bâtir sur quelque chose comme ça. Par contre, ça a été super, comme je disais, un vraiment bon film. Et puis là, c'est confirmé que Daniel Craig, va jouer un deuxième personnage qui est son frère jumeau,
Ouais, en prison, là.
en prison. Ça a l'air,
Ouais,
ça va être sûrement très drôle parce
ouais.
que c'est un excellent acteur. J'ai
Ah,
pas
je l'ai
été un.
adoré là-dedans.
Oui, j'ai pas. Je suis pas un gros fan de Daniel Craig en tant que James Bond. Ça, c'est un autre sujet. Mais Daniel Craig en tant qu'acteur, en général, est excellent. Knives Out, ça a été d'après moi, un bijou. Puis j'ai juste hâte de voir les suites parce que de la manière que ça a été construit, c'est vraiment justement un Agatha Christie, Sherlock Holmes. J'ai juste Rambo, mais c'est pas Rambo, Columbo des temps modernes.
Dans le style de Colombo, c'est
Dans
ça.
le style de Columbo, vraiment, c'est le détective qui connaît toutes les réponses avant même que ça l'arrive. Vraiment, vraiment intéressant. Fait que j'ai vraiment hâte de voir ce que ça s'en va. Mais encore là, comme que tu disais tout à l'heure, c'est un beaucoup, beaucoup, beaucoup de bidou.
Ben, c'est beaucoup de bidou. Puis une des raisons, c'est que on parle d'un chiffre exact de 469 millions. Puis une des raisons, c'est que Ryan Johnson, qui est le réalisateur, et Daniel Craig vont chacun recevoir combien d'argent pour ça? 100 millions chaque. Donc, c'est ça. Donc, là, il reste 269 millions pour faire le film, la promotion, les autres acteurs, évidemment, parce qu'il va y avoir des très bons acteurs, là. Si on regarde le premier, c'était rempli d'excellents acteurs et actrices. Fait que, non, non, c'est une très grosse deal, si on veut, pour Netflix. Puis en plus, avec la deal qu'ils ont eue pour Sony. D'ailleurs, c'est eux qui vont avoir l'exclusivité des films de Sony, étant donné que Sony, c'est un des seuls studios qui n'ont pas de streaming, de service de streaming. Donc, ils ont fait ce qu'ils devaient faire. Ils ont fait une deal avec Netflix pour ça. Donc, ça, c'est une autre chose qui est arrivée cette semaine. Donc, Netflix ont frappé deux grands coups, si on veut, avec ça, parce que ce que ça veut dire, c'est que les films de Spider-Man, ils vont être sur Netflix et non pas sur Disney+. Fait que j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire avec ça, là, parce que c'est un... T'sais, oui, c'est Marvel Studios, mais c'est Sony. Puis ça, c'est une autre chose qu'on va peut-être parler un moment donné pour essayer d'expliquer aux gens c'est quoi la différence. Ouais, parce que c'est un peu... C'est très complexe. On va pas aller là, puisqu'on est déjà rendu à une heure, puis on va parler quelques minutes de WandaVision. Mais en gros, juste pour vous dire, c'est Sony qui distribue les films, puis c'est Marvel Studios qui est produit. Bon, c'est ça, les grosses lignes. Donc, étant donné que Sony distribue, ben c'est eux qui décident, c'est eux autres qui s'occupent de la promotion puis tout ça. Dans le fond, c'est eux autres qui payent le gros bidou, là, comme on dit tantôt. Fait que les films vont se retrouver sur Netflix avec les films de Sony, que ce soit Venom, puis Morbius, puis tous les autres spin-offs qu'ils vont faire de Spider-Man, de personnages plus ou moins connus, qui s'en vient éventuellement. Puis on verra où ce que ça va aller.
C'est habile. Bref, ça, c'est vraiment habile, pour venir à Daniel Craig, puis même dans le fond, on pourrait dire Spider-Man en tant que personnage, si on veut. C'est un peu, je compare ça un petit peu à Adam Sandler. Adam Sandler a une entente d'exclusivité avec Netflix, fait qu'ils vont chercher, au lieu d'aller chercher, dans ce cas-ci, c'est Knives Out, mais c'est quasiment un thème, ils vont acheter un thème, ils vont acheter une idée, un personnage ou une personnalité. Fait que c'est intelligent. Sur ce, j'aimerais nous faire notre propre auto-promotion. Danick, qu'est-ce que tu dirais? On pourrait donner notre exclusivité des podcasts pour 1 million chaque. Alors, avis aux intéressés.
D'accord. On va laisser aux gens 2 semaines là, pour qui pensent à comment ils vont faire ça. Puis des soumissions. Puis écoute, on va accepter la plus grande enchère finalement. Je pense 2 semaines, c'est bon. On en reparlera au prochain épisode, voir qui a été la plus grosse enchère. On va voir de ça. Mais bref, c'est 100% raison. Je pense que c'est un gros pari, mais je pense que c'est là qu'on s'en va. Puis Netflix, eux autres, ils sautent là-dessus. Puis ils veulent pas Netflix. C'est le premier géant streaming. Puis ils veulent faire sûr que leur nom reste là, puis que ce soit eux. Comme j'ai entendu un moment donné sur Twitter, j'ai trouvé ça drôle. Comme c'est le verbe de streamer, c'est Netflix. Là. J'ai Netflixé ça. Là. Il y a un verbe pour ça tellement que c'est l'emblème du streaming pour l'instant. Fait que c'est normal qu'ils vont chercher ces grosses...
Ils veulent rester parce que Disney a clairement commencé à prendre du terrain.
Deuxième, le Disney.
Ouais, oui, deuxième. Avec Stars qui s'en vient.
Stars depuis février. C'est énorme. Là.
Oh, oui, ça va se rajouter là-dessus là, à une vitesse vertigineuse.
Ben c'est ça. Fait que, bref, c'est ça. Puis en passant, j'ai pas dit ma prédiction pour le film d'1 milliard.
C'est vrai.
Fait que toi, c'est Spider-Man No Way Home. Puis honnêtement, c'était un de mes choix que j'hésitais. Puis je vais saluer un de nos auditeurs, Jordan, pour pas le nommer. Lui, il a prédit que ce serait Avatar je pense que c'est décembre 2022. Puis,
je me rappelais même plus de ça. Puis ma soeur travaille dessus actuellement. Fait que j'aurais dû cliquer un petit peu.
Ben tu sais, puis je pense qu'on va s'entendre. C'est 100% sûr, à moins whatever ce qui va se passer d'ici ce temps-là. Mais Avatar 2 va faire au moins 1 milliard. Ça, je suis aucunement inquiet.
Ah, je comprends pas. Mais bon, ça, c'est d'autres choses. Là. Je ne comprends pas ce film-là. Mais ça, c'est un autre débat. Ah,
bon, non, je dis pas qu'il est pas bon. On va pas aller là.
Je dis pas qu'il est pas bon. C'est pas ça que je dis.
Ben, je pense qu'on a 8 épisodes de podcast juste aujourd'hui de différents sujets qu'on peut partir.
Oui.
On est bon jusqu'à cet été à parler.
C'est comme des previews after preview after preview.
Ben, c'est hein? Ça. On fait juste dire on est là pour rester.
Ben, on veut notre million, là, c'est pour ça.
Ben c'est ça, il faut faire la promotion, il faut promouvoir notre produit, il faut que ça vale quelque chose.
Intéressant.
Moi, je pense No Way Home, c'est aussi, je pense qu'Avatar 2 va le faire, mais je pense que ça va être avant ça. Puis No Way Home, c'est intéressant, j'y ai pensé moi aussi, je vais aller encore plus risqué que ça, là. Puis je vais dire un gros si, là. Si la promotion du film que je vais nommer est bien réussie, c'est un très gros si. Moi, je vais aller avec Eternals. au mois de novembre, juste avant Spider-Man No Way Home. Puis, une des raisons, puis le monde dit « Ah, c'est quoi ça, Eternals? » Ben, c'est ça. On va vous expliquer ça un moment donné sur le podcast. Notre neuvième sujet qu'on plug l'épisode dans le 1h05 qu'on a
juste depuis le début. Je suis un éternel optimiste, mais Danick, tu es toujours une coche au-dessus de moi.
C'est un pari risqué, puis tu dis quoi? Si je perds le pari, je suis bien correct avec ça. Mais moi, c'est un de mes projets les plus que j'ai le plus hâte de voir. Parce que ils lâchent pas de promouvoir comme quelque chose de différent. Puis ils ont une carte cachée avec ça. Puis
oui, Zhang.
La carte, c'est Chloé Zhao, c'est la réalisatrice.
Zhao, excusez. Désolé, Chloé Zhao.
C'est correct. C'est pas grave, mais...
J'avais la première lettre.
Elle a fait un film récemment qui s'appelle Nomadland, puis... Allez pas écouter ce film-là en pensant que c'est divertissant, puis c'est un film de Marvel, tout ça, c'est un drame, c'est quasiment borderline documentaire un peu, mais c'est en train de gagner tous les prix. Puis d'ailleurs, il est sur Disney+, sur Star depuis la semaine passée. Elle est en train de gagner, là. Je pense qu'elle a le Golden Globe, elle a le RAF, puis elle va être nominée aussi.
Sûrement l'Oscar.
Évidemment, elle est nominée pour les Oscars comme réalisatrice. Ah ben, j'en doute pas du tout. Puis, je pense que Marvel le savent très bien. Puis, c'est une des raisons pourquoi on n'a pas vu encore la bande-annonce d'Eternals qui est prête, ça fait presque un an. Parce qu'eux autres, ils vont avoir bien du fun à écrire From Acclaimed Director, Academy Award and Golden Globe Winner, Chloé Zhao. Puis, ça va. Fait que là, eux autres, ils ont une opportunité ici d'avoir ça comme pour aller chercher l'attention des gens. Puis, la seule chose qu'ils ont à faire, tant qu'à moi, pour la première bande-annonce, là, c'est vraiment qu'elle soit différente des autres films de Marvel. Comme, arrivez-moi qu'une bande-annonce là, à la Dune, à la justement des bandes-annonces que tu vois pas beaucoup, mais que tu vois que ça a l'air grandiose, puis ça va faire que les gens vont dire c'est quoi ça? Puis il faut que tu sortes cette bande-annonce-là pas plus tard qu'au mois de mai pour que les gens y pensent pendant plusieurs mois. Puis là, tu pars la vraie promotion au courant de l'été, puis tout ça. Puis l'autre chose qui joue pour ce film-là, c'est les acteurs. Écoute, tu as Angelina Jolie qui joue dedans. Richard Madden qui était très populaire dans Game of Thrones, puis Jon Snow, j'oublie toujours son vrai nom.
Keith Harrington.
Ouais, c'est ça, Keith Harrington, exactement, qui va jouer Black Knight dans ce film-là aussi. T'as Salma Hayek, t'as Kumail Nanjiani, puis encore là, je m'excuse si j'ai. Magnum, on le voit dans plusieurs films de comédie dernièrement. En tout cas, il y a beaucoup d'acteurs dans ce film-là, puis d'actrices, puis. On met beaucoup l'emphase sur quoi que c'est ça va être différent. Puis aussi que la réalisatrice, elle l'a dit en entrevue, elle dit moi, on m'a donné les clés, puis on dit fais qu'est-ce que tu veux. Il y a quelques petites lignes qu'il a fallu qu'elle respecte pour que ça suive les autres films. Mais ça a l'air que c'est très isolé en général comme film. Puis ça va être très différent. C'est filmé sur place, sur des vrais comme. Dans la nature, sur la vraie planète Terre et non pas dans un studio à Atlanta avec des green screen et des blue screen, comme qu'on dit. Il y a certaines scènes qui sont filmées là, mais en grosse partie, à un moment donné, ils filment une scène sur un volcan, là, je ne sais pas trop qui parlait, puis les acteurs ne lâchent pas de parler de cette scène-là, comme quoi qu'ils n'ont jamais vu ça dans leur carrière, qu'ils ont filmé une scène direct sur un volcan, tu sais, comme. Fait que c'est des choses comme ça qu'on va voir dans ce film-là, puis t'as une opportunité ici, puis la seule affaire qui peut jouer contre ce film-là, c'est justement le fait que les gens ils connaissent pas les personnages, puis ils connaissent pas le... Parce que même dans les comic books, Eternal, c'est pas populaire vraiment, là. Fait qu'on ça serait la seule chose qui peut jouer contre, mais si tu mets la promotion du film sur ça, sur la nouveauté, sur le visuel, sur qui est en arrière de la caméra, puis évidemment ses acteurs... Moi, je pense que tu peux aller chercher un gros montant d'argent avec ça. Fait que moi, je vais aller avec ça. Puis No Way Home, c'est mon deuxième choix. On l'a, là. Puis c'est ça. Puis ça se peut que ce soit Jordan qui gagne avec Avatar 2 dans un an. Puis si c'est ça, on t'invitera sur le podcast, puis tu te vantras. C'est bien correct.
On t'aime, Jordan.
Absolument. Juste des fois. Mais si tu as raison, par exemple, on va réviser ça. Mais bref, on va aller à WandaVision. On va parler un peu parce qu'on a parlé évidemment d'épisodes 1 à 6, si on veut, un peu plusieurs semaines passées là, déjà, là, parce que je pense que le show il a fini, je pense que c'est le 5 mars, donc on parle d'un mois passé déjà, puis, 5 semaines passées.
Petite parenthèse, juste avant qu'on embarque là-dessus, pourquoi on ne parle pas aujourd'hui, on s'en est parlé, je t'ai posé la question juste avant le podcast, pourquoi on ne parle pas de Falcon aujourd'hui? Eh bien, on a décidé, pour ne pas être redondant, de parler des séries un peu comme un film. Fait qu'on va attendre, on va faire nos spéculations au départ et on va en reparler à la fin, justement pour ne pas faire un peu comme avec WandaVision, de toujours reparler de chaque épisode qui est sorti. On ne fera pas une review de chaque épisode un par un. On va y aller vraiment dans la globalité pour essayer de vous amener, dans le fond, différents sujets et pas toujours là, parler de la même émission qui est l'émission de l'heure actuellement.
Non, c'est très bien dit. C'est mot pour mot ce que j'aurais dit. Fait que c'est excellent. Mais non, c'est ça. Puis ça va nous permettre de focusser sur d'autres choses aussi puis pas toujours de répéter ça. Fait que c'est une très belle... façon de le dire, Rudy, merci pour ça. Mais bref, on va quand même finaliser un peu la discussion là-dessus parce qu'on n'a pas pu la finir la dernière fois. Fait qu'on va aller vraiment, on n'ira pas en détail, on va parler vraiment des petits moments qu'on a aimés des derniers trois épisodes, de nos impressions générales, mais je pense qu'on va focusser surtout sur c'est quoi qui va se passer après. Où est-ce que les personnages vont aller, c'est comme... où est-ce que les personnages principaux s'en vont après WandaVision, puis à quoi s'attendre de ça. Puis, je pense que ça va être le focus de ça. Fait que moi, je vais commencer. Mon épisode préféré de la série est dans ces trois épisodes-là, des trois derniers. C'est l'épisode 8. Moi, je trouve que c'est l'épisode qui est le mieux réalisé des neuf, si on veut. J'ai adoré... Puis d'ailleurs, on avait parlé dans notre épisode notre épisode 2, quand on parlait des épisodes 1 à 6, comme quoi que nos petites projections... Là, d'ailleurs, Rudy, t'avais raison sur le Vision versus Vision. Fait que ça, c'est arrivé, évidemment, dans c'était la after-credit scene de l'épisode 8, qui était un très bon moment, d'ailleurs, de cet épisode-là. Mais de voir le flashback, puis de voir de toutes les... d'où ce que ça venait, comme à travers quoi que Wanda avait passé. Puis c'est, justement, on parlait des commercials, puis tout ça, puis on a vu certains de ces commercials-là, pourquoi que c'était le cas. Tu sais, je parlais de la bombe qui n'avait pas explosé dans l'appartement. Bon, on le voit dans l'épisode 8. On voit le visuel de ça, tu sais. C'est juste donner un exemple. Puis cet épisode-là était très... Il n'y avait pas beaucoup d'action. C'était vraiment centré sur l'historique de ça. Puis on avait eu la fameuse... révélation dans l'épisode 7 que Agnes c'était Agatha Harkness, le secret le moins bien gardé du show. Je pense qu'on était assez au courant, mais la façon qu'ils l'ont fait avec sa petite chanson à la fin, puis de voir tout ce qu'elle faisait depuis, c'était vraiment très bien fait de faire ça. Fait que là, dans l'épisode 8, c'est évidemment elle qui va faire en sorte que Wanda revienne dans le passé, puis qu'on voit l'histoire parce qu'elle veut aller chercher la source de pourquoi qu'elle... Wanda est aussi puissante, puis pourquoi qu'elle est capable de créer ce monde imaginaire-là, si on veut. T'sais. Fait que j'ai vraiment adoré cet épisode-là. C'était vraiment ça. Puis la finale était bonne. C'était une très bonne finale. Vraiment, c'était de loin de celle qui avait le plus d'action. Fait que ça l'a plu à beaucoup de gens. J'ai senti que... Je pense qu'on pouvait voir... On pouvait sentir, je pense, que l'effet COVID, parce que... je vais dire ça, parce qu'il a fallu qu'ils filment des scènes après... parce que la production est arrêtée pendant un certain temps. Puis on peut voir qu'il y a certains détails qui ont été mis ensemble, puis il y a des petites choses qui ont été enlevées. On pouvait voir, surtout dans l'épisode 9, je te dirais, c'est celle-là où ce qu'on a vu le plus cet effet-là. Ça n'enlève rien à la qualité de l'épisode. J'ai trouvé que c'était très bon. Moi, pour moi, ça l'a bien fini. Pour moi, c'est un succès du début à la fin. Mais je peux comprendre que certaines personnes ont été un petit peu... laisser sur leur appétit, si on veut, là, tu sais. Puis les attentes étaient tellement énormes. Puis ça, je pense qu'Audi, on peut en parler tout de suite, d'ailleurs. Mm-hmm. Les fameuses théories, là, tu sais, comme la beauté d'avoir les épisodes qui sortent une semaine après l'autre, c'est de pouvoir en parler. On parle d'épisodes pendant une semaine. Même moi, je vais aller sur YouTube checker des vidéos de réaction, puis des gens, qu'est-ce qu'ils en parlent, puis c'est quoi leurs opinions, puis leurs théories là-dessus. Puis mais à un moment donné, c'est que les théories sont devenues tellement énormes avec WandaVision, puisque c'était un show qui était basé sur le mystère. Fait que c'est sûr et certain qu'on ne savait pas grand-chose, puis on en savait un tout petit peu à chaque épisode de plus. T'sais. Mais là, ce qui est arrivé, c'est pas compliqué, c'est que la plupart des théories n'ont pas été bonnes. Puis même le showrunner, celle qui est, je pense que c'est Jack, Schaefman, je pense que c'est celle qui écrit le show du début à la fin, si on veut, le main writer, excusez mes anglicismes, là, mais je suis habitué de parler de ça plus en anglais que d'autres choses. Là. Mais en gros, elle a même dit, ils lisent évidemment eux autres, ils vont lire les théories des fans sur les médias sociaux, puis elle a dit, waouh, j'aurais aimé ça, penser à ces théories-là, je les aurais mis dans le show certain, mais j'ai pas été loin de même. Là, t'sais. Fait que, en partant, quand tu lis ça, tu es comme, OK, fait qu'on.
En même temps.
Je pense qu'on peut.
En même temps, je vais intervenir ici. Je trouve qu'ils ont trollé. Excusez le terme.
Ils l'ont fait quelques fois, oui.
Ils ont été des trolls plusieurs fois. Et ils ont comme un peu cherché le trouble.
Donc, ouais, ils ont causé leur propre piège.
Leur propre piège à con. Mais c'est pas qu'on est con, mais tu sais, c'est l'expression qu'il y a un piège à con. En voulant dire qu'on est tout tombé.
De Bethany ici, là.
Oui, tu sais, regarde, Quicksilver, de là à penser que c'est un X-Men, etc. Regarde, puis ils ont appris de leurs erreurs, là, parce que Falcon, je ne veux pas trop rentrer dans les détails, mais dernièrement, il y a un site internet qui est sorti promotionnel, il y avait des choses par rapport aux X-Men, et ils ont enlevé en même pas quelques heures, parce que là, ça devenait fou. Fait qu'ils ont appris, je pense, avec WandaVision, de troller les fans comme ça, c'est peut-être pas une bonne idée parce qu'on est trop intense. Malgré que il y a des rumeurs encore là, des rumeurs qui disent que il y a plusieurs choses, comme tu disais, qui ont été enlevées dans les trois derniers épisodes à cause de la pandémie. La possible visite de cet ingénieur de l'espace qu'on n'a pas vu. Supposément qu'il y a des scènes qui ont été tournées par rapport à cette personne-là. On n'a pas vu beaucoup, justement. Ça, c'est peut-être ma déception dans les trois derniers
épisodes.
Ils ont coupé
Reed Richards.
Oui, Krasinski, avec John, mon grand chum. Avec, mais on n'a pas vu beaucoup non plus de Photon. Oui, Photon, c'est ça, qui était son nom de super-héroïne. Qui vient de découvrir ses pouvoirs, mais qui est presque pas là. Mais supposément qu'il y avait plusieurs scènes avec elle. Ce qui a été un peu décevant pour moi dans les derniers épisodes, puis je vais commencer par le négatif parce qu'il n'y en a pas beaucoup de négatifs pour ma part, c'est peut-être juste toute justement cette partie-là de l'armée, le supposément armée là, de qui
tu parles
là,
de Sword?
Là. Oui, de Sword. Puis dans le fond, justement, l'armée qui s'en venait là avec leur truc, etc. Sword, le directeur, Cataract.
Hayward, le directeur Hayward.
Hayward, mais c'est tout ça, Cataract, le projet. Fait quelques semaines. On n'a pas su c'était quoi plus que ça. Ça va
pas c'était White Vision.
Oui, mais comme il n'y a pas vraiment de lien qui a été fait concrètement, je trouve. Il n'y a pas. Il y a beaucoup de choses dans les airs. On peut comprendre, on peut faire des liens, ceux qui comprennent, ceux qui ont lu les comics, justement, etc., peuvent faire plus de liens que le simple visionneur à la maison qui ne connaît pas trop les dessous de cette histoire-là. Fait que c'est peut-être le seul négatif pour moi. Il y a eu, je pense qu'on aurait gagné à avoir un ou deux épisodes de plus pour définir quelques petites choses ici et là. Je pense que ça aurait été très, très intéressant.
Si je peux me permettre, Rudy, oui? Que c'était supposé être initialement 10 épisodes. Ça a été changé à 9.
Ouais, c'est ça, ça fait du sens. Je crois que c'est là que je veux en venir. Je pense qu'il y a eu du matériel qui malheureusement n'a pas pu faire la coupure à cause de ce qui s'est passé. Est-ce que ça en fait un moins bon show? Pas du tout. Moi, WandaVision, c'était incroyable. Du début à la fin, j'ai adoré les deux premiers épisodes, même les trois premiers épisodes. Mes enfants, pour ceux qui se rappellent des autres épisodes, n'ont pas aimé vraiment les deux premiers épisodes. Mais moi, j'ai adoré de revisiter ce temps-là, cette époque-là, le mystère, justement. Dans les trois derniers épisodes, justement, j'ai adoré le Vision Blanc, White Vision et Vision,
oh, ça, c'était super.
Le speech de Noé. J'ai adoré ça, le côté philosophique de qui fait en sorte que tu es quelqu'un pour être ou ne pas être, là est la question, quasiment.
Ouais, c'est pas mal ça, ouais.
Le débat familial, le qu'est-ce qui fait en sorte qu'on existe, qu'est-ce qui fait en sorte qu'on n'existe pas, les gens contrôlés. Tout, c'est la première émission, dans le fond, qui fait en sorte qu'on voit la vie de tous les jours des héros. Là, maintenant, on est rendu dans Falcon, qui va encore un peu plus loin. Mais là, on voyait vraiment l'aspect psychologique de Wanda qui souffre énormément. Et la fin, puis j'irai pas en détail, mais comme After Credits est intéressant à regarder pour ça aussi, ouvre la porte au prochain film. Mais justement, ce qui est plate, c'est pas l'émission, c'est peut-être la réaction des gens qui en attendaient trop.
C'est ça.
Puis c'est là que pour moi, ça a fait comme pouet, pouet, pouet. Les gens ont tellement mis leurs attentes tellement hautes avec chaque épisode. Que ça fait en sorte que beaucoup de gens qui ont été déçus peut-être, mais moi je trouve que la finale était parfaite, ça pouvait pas nécessairement finir autrement, et puis j'ai pleuré, je suis très sensible aussi, mais j'ai pleuré, j'ai trouvé ça triste, j'ai trouvé ça beau, je m'y attendais à cette finale-là à la fin, plus que l'épisode avançait le 9e. Je me disais, il n'y a aucune manière qu'on va voir justement Reed Richards arriver ou Doctor Strange arriver, puis changer la donne tout d'un coup, puis que là...
Il n'aurait pas dû, là. Ça n'avait pas d'affaire, là.
Ça n'avait pas d'affaire. Fallait que ça finisse comme que ça finit. Mais encore là, comme je dis, le piège à con ou le trolling, je crois qu'ils se sont mis eux-mêmes dans cette situation-là. Puis c'est peut-être ça qui est un petit peu frustrant pour les gens, dans le fond. Ils sont frustrés contre eux-mêmes d'avoir... cru à ça. Un peu comme en ce moment qu'on voit dans justement la nouvelle série de Falcon, des indices, puis là on espère qu'on va voir Wolverine apparaître, exemple. Là, je l'ai déjà vu, mais je croirais vraiment pas. Justement, on l'a vu avec WandaVision que ça arrivera pas, certainement pas. Puis je pense pas que Hugh Jackman reprenne le rôle. Ouais, c'est ça. Tu sais, parce que, en gros, là, on en reparle plus tard, mais il y a le fameux bar préféré de Wolverine qu'on voit, mais ça n'a aucun rapport. Imaginez pas que Wolverine s'en vient. Sinon, vous allez être aussi déçus. Spoilers de
Falcon, il va être dans 2 semaines. Ouais, c'est ça.
Fait que, sinon, vous allez être aussi déçus que WandaVision. Fait que, je pense que c'est la leçon à retenir de WandaVision, c'est apprécier chaque moment que vous avez d'une émission d'aussi bonne qualité. Apprécier chaque minute. Considérez-vous chanceux d'avoir de la si bonne télé. Mon Dieu que c'est le fun. J'écoute en ce moment, comme je disais, Flash. Wow! On a tellement des bonnes émissions actuellement, de fantasy, de super-héros, de toutes sortes de choses. C'est vraiment pas le temps de commencer à chialer juste parce que notre propre vision n'est pas arrivée. Parce que c'est la vision des créateurs. Puis WandaVision, c'était juste spectaculaire. C'est pas la meilleure émission de tous les temps, sauf que pour un fan de Marvel, un fan du MCU, du Cinematic Universe, WandaVision était du bonbon, selon moi.
Ouais, la très grosse qualité. C'est des... Très bien dit aussi en général à propos des attentes. Je pense que c'est une leçon que... Puis tu sais, on dit ça, mais comme il y a beaucoup de gens, certains qui nous écoutent, qu'eux autres, qui n'ont pas peut-être nécessairement vu ces rumeurs-là en ligne parce qu'ils ne sont pas autant dans les médias sociaux, que ce soit sur Twitter ou peu importe. Fait qu'eux autres, ils ont écouté le show pour ce que... Ben absolument. Puis, mais en même temps, c'est de voir, ça ne change pas le fait que ce phénomène-là du over-theorizing, comme on dit en anglais, là, de faire des théories beaucoup trop grandes pour ce que ça devrait être. Je pense qu'avec Falcon, sans aller dans Winter Soldier, sans aller dans les spoilers, je pense, de ce que je vois jusqu'à date, après 4 épisodes sur 6, ça s'est calmé. Là. Ben, je pense que le style du show est moins... Ben, c'est ça, le style du show, je pense qu'il est moins axé là-dessus, mais je pense que les gens... je pense que... Puis, faut pas, ça va chercher un fanbase un peu différent. Puis, je pense que... ça va chercher ce qu'il voulait, puis ça nous surprend également. Puis là, j'arrête d'en parler, on va en parler dans 2 semaines en détail, puis j'ai vraiment hâte d'en parler.
Prends un autre exemple, puis je te pose une question, puis je sais c'est quoi la réponse, mais puis j'ai la même réponse que toi, je suis certain. Mais est-ce que tu serais déçu si dans... Colin, encore Spider-Man 3, No Way Home, t'avais pas Tobey Maguire, Andrew Garfield et notre fameux Spider-Man actuel?
Ben, il devrait... comme...
Mais vas-tu être déçu?
Si on enlève les rumeurs, on ne saurait même pas qu'ils sont là. Fait que moi, exactement, je m'en vais voir ce film-là, pas pour eux, je m'en vais voir le film pour la suite de Far From Home.
Mais il y a beaucoup de gens.
S'il apparaît.
Ah oui. Mais il y a beaucoup de gens qui vont être déçus s'ils ne sont pas là. Et encore là, ça n'a jamais été confirmé. Alors, c'est un peu comme la même chose pour WandaVision, mais je fais juste une analogie là, en voulant dire, quand vous allez voir Spider-Man No Way Home, et que si vous vous attendez à voir les trois Spider-Man, les trois Mary Jane, les Green Goblin, etc., tout le monde à revenir, mm-hmm, même si les rumeurs l'ont dit, soyez pas déçus si ça n'arrive pas. Un exemple à l'inverse, puis je pense qu'il n'y a personne qui s'attendait à ça, puis ça a causé une surprise quand on regarde Mandalorian et puis qu'on voit un de nos personnages préférés, parce qu'au cas où que les gens n'avaient pas écouté, je ne dirais pas, mais il arrive quelque chose et puis, comme moi, plein de gens on se sont mis juste à capoter parce qu'on ne s'attendait pas du tout à ce qui est arrivé. Puis, il n'y avait pas de rumeur qu'ils le disaient non plus. On a juste apprécié chaque moment pour ce qu'ils étaient. Puis, je pense que WandaVision, c'est un bon exemple de ça, qu'il faut absolument accepter les choses telles qu'elles sont. Puis, de toute manière, il n'y a rien à faire. Là. Ça ne changera pas. Il n'y aura pas de Snyder Cut de WandaVision. Là.
Release the Wanda Cut. Non. Ça va être... C'est ça que c'est. Écoute, on a eu... Tu regardes, puis moi, je l'ai réécouté du début à la fin, là, une fois qu'il y avait tout sorti, puis ça s'écoute tellement bien au complet d'un bout à l'autre, puis tout fonctionne très bien. Tu sais, c'est sûr que si je décortique, je vais trouver des défauts, mais si je l'écoute, puis je fais juste écouter ça pour être entertainé, ça a joué son rôle à merveille. C'était différent, ça nous a pris par surprise. Tu parlais justement du côté humain, c'était la base du show, puis c'est aussi la base de Falcon et Winter Soldier, puis je pense qu'on commence à avoir un pattern.
On va avoir des beaux débats là-dessus.
Absolument, de show de Marvel Studios, puis parce qu'ils ont le temps d'aller explorer ces détails-là, tu sais. Fait que moi, bref, je pense qu'on s'entend là-dessus, moi et Rudy, on a adoré ça. Mais là, c'est fini, WandaVision, évidemment, puis on est déjà en plein dans Falcon Winter Soldier, puis on arrive dans Loki le 11 juin. Mais si on prend nos personnages principaux, on prend évidemment Scarlet Witch maintenant, parce qu'elle est maintenant Scarlet Witch dans le MCU depuis la fin de l'épisode 9. On prend Vision, on va prendre, disons, Monica Rambeau, entre autres, ça c'est nos personnages principaux, là. Puis où est-ce qu'ils vont être après ce show-là? Parce que c'est clair qu'on va les revoir, puis on voit déjà Monica Rambeau dans la première, dans la mid-credit scene, si on veut. Puis on voit un Skrull qui s'approche d'elle, ben, une agente du FBI qu'on découvre que c'est un Skrull, puis qui lui dit, il veut te rencontrer, puis elle dit qui ça, puis il pointe vers le haut, qui pointe à l'espace. Donc je pense que c'est très clair que on sait que Monica Rambeau va être dans Captain Marvel 2. Puis j'ai mes petits doutes aussi, on verra, là, mais peut-être dans le show de Secret Invasion avec Samuel L. Jackson. Ben, je pense qu'il parle de lui. Là. Moi, je pense qu'il parle, ouais, je pense aussi, qu'on parle de Nick Fury ici.
C'est dans quel film encore?
Dans Far From Home, il est là. Puis il faut juste le timeline. Far From Home se passe 8 mois après Endgame. Tandis que WandaVision, on parle de 3 à 4 semaines, donc peut-être un mois à peu près. Donc, est-ce qu'il est déjà dans l'espace ou il est sur le point d'y aller? On ne sait pas, là, tu sais. Mais peu importe, je pense qu'il parle de lui. Fait qu'elle, on va la voir dans Captain Marvel. Ils ont mis son origine de côté en le faisant dans WandaVision. Fait que quand elle va arriver dans Captain Marvel 2, on y va. Let's go avoir son costume, tout le kit. Ça va être le fun. Puis là, c'est là qu'on va vraiment voir ses pouvoirs, puis comment est-ce qu'elle est, comme... Fait que ça va être... Ça devrait être... En tout cas, Captain Marvel 2, je pense que ça va être tout un film qui va être très différent du premier.
Très hâte.
Puis, ouais, vraiment hâte de ça. Puis, pour ce qui est de Vision, j'ai aucune idée quand est-ce qu'on va le revoir. J'essayais de penser, d'ailleurs, quand j'ai mis mes notes de podcast, comme où est-ce qu'on pourrait le revoir, puis... Possiblement dans Doctor Strange 2.
Oui, pourquoi pas,
parce que Wanda va être là.
Elle va vouloir le ressusciter ou peut-être l'emphase va être mise sur les enfants. C'est sûr qu'elle est là. Fait qu'on sait qu'elle est là dans ce film-là. Il va avoir un lien. C'est clair qu'il y a un lien.
Ouais.
Est-ce qu'on va voir White Vision? Est-ce que White Vision retrouve ses couleurs? Je sais pas. Mais il retrouve sa mémoire, en tout cas, de toute manière, façon de parler.
Ben, il y a la mémoire. C'est comme si on compare bien vite fait au comic book. Dans les comic books, c'était pareil. Il y a la mémoire de ce qui s'est passé, mais il n'y a pas les sentiments qui viennent avec.
C'est ça.
Fait qu'il se rappelle de Wanda, il se rappelle des enfants, mais il va être insouciant, ou pas insouciant, mais il va être comme neutre à ça, face à ça.
Insensible.
Insensible, merci, le terme. Puis je pense que dans les films de Marvel, ce qui est le fun, c'est qu'ils ont la chance d'aller ailleurs tout de suite. Fait que là, on l'a vu. Là, on va aller à Wanda. Elle est dans la end credit scene, elle est dans un chalet. Puis là, elle boit un thé. Puis là, quand elle rentre dans le chalet, on se rend compte que sa forme astrale est en train de lire le Darkhold, qui était le livre qu'on a découvert dans l'épisode 7, 8 et 9 là, de WandaVision.
On a découvert ça.
Dans
Agents of S.H.I.E.L.D.
Oui, je sais, mais c'est pas. On va pas là. C'est pas la même. C'est pas la même version. Mais oui, il était dans Agents of S.H.I.E.L.D. Puis il était aussi dans The Runaways, je pense. Là, un des shows de Marvel que j'ai pas écouté, mais que j'ai entendu dire qu'il était là-dedans aussi. Fait que bref, ce livre-là. Une chose qui est sûre, peu importe quelle version qu'on a, quand tu lis ce livre-là, ce n'est pas bon. C'est pas supposé faire ça. Fait qu'elle, elle le fait. Puis là, on entend un de ses enfants. Là, je pense que c'est Billy, je pense, qu'on entend.
Ouais,
en
tout cas, peu importe.
On en entend un, puis qui crie à l'aide à sa mère. Là, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Parce que là, on s'était fait dire que WandaVision menait directement à Doctor Strange 2. À part cette scène-là, il n'y a absolument rien dans le show qui nous fait penser qu'on parle de multiverse, à part le fait, évidemment, qu'il y a de la magie qui est en jeu. Mais en cause que Doctor Strange ne s'est pas présenté dans le show, le lien, il est où? Fait que moi, je pense que le lien, il est là. Puis de voir qu'elle rentre en contact avec, possiblement, puis là, quand elle entend la voix de son ou ses enfants, je ne me rappelle pas si c'était les deux, je pense que c'est juste un. Mais là, ses yeux élèvent, puis là, boum, ça l'arrête là. Mais est-ce que c'est à travers le multiverse qu'elle va aller les chercher? Parce que moi, j'ai vraiment l'impression qu'elle s'en va les chercher, parce que on revient à ce qu'on a parlé dans l'épisode 2. Je suis pas mal sûr que c'est l'épisode 2, peut-être 1, peu importe, là. Mais on s'enligne vers les Young Avengers dans d'ici quelques années. Ça, c'est clair. D'ailleurs, il y en a un, on va parler des autres qui vont être introduits dans d'autres shows un peu plus tard. Dans d'autres épisodes, mais il y a une façon qu'ils vont être ramenés, ces enfants-là. Là. Puis moi, je suis pas mal certain qu'on va revoir les deux jumeaux dans Doctor Strange 2. Et est-ce que c'est ça qui va ouvrir le multiverse? Parce que techniquement, d'après ce qu'on s'est fait dire, Spider-Man 3 et No Way Home, je devrais dire à cette heure, est aussi relié dans cette espèce de mini-histoire-là, là, de WandaVision, Doctor Strange. Puis je pense que Loki a un lien aussi. Là. Je pense que c'est assez clair que Loki va avoir un certain lien avec Doctor Strange 2.
Mm-hmm.
Fait que de voir toutes ces choses-là, comment est-ce que le multiverse va être ouvert? Puis justement, on pensait que c'était pour être dans WandaVision. Puis dans le fond, est-ce que c'est dans Loki qu'on va ouvrir le multiverse? Puis que les impacts, on va les voir dans Spider-Man No Way Home et dans Doctor Strange 2. Fait qu'on verra, mais une affaire qui est sûre, Wanda, on va la revoir dans Doctor Strange 2, In the Multiverse of Madness, puis c'est jusqu'à date, c'est le seul projet qui est annoncé pour, mais évidemment, elle va revenir plus tard, je suis sûr et certain, là. Mais c'est ça, fait qu'on va les revoir, tous ces personnages principaux-là. Est-ce qu'on va revoir Darcy, est-ce qu'on va revoir Jimmy Woo? Probablement, c'est clair, dans des rôles de support. Je verrais Jimmy Woo à venir dans les Agents of Atlas, qui est un groupe qui est en lien avec Shang-Chi. Puis là, on va voir Shang-Chi au mois de septembre, ou Shang-Chi, comme que Kev y dit. Fait que on verra si c'est un fait, mais Jimmy Woo dans les comics, il est très impliqué dans ce groupe-là. Fait que c'est une possibilité, ça aussi. Mais bref, on va revoir ces personnages principaux-là, je suis convaincu. Et non, je ne crois pas qu'on va revoir Quicksilver.
Ouais. Mais comme je pense que c'est la fin. Comme tu l'écrirais si bien, Danick, le futur de Marvel, nous sommes choyés.
Nous sommes très choyés. D'ailleurs, c'est mot pour mot, bizarrement, ce qui est écrit sur nos notes.
Hein? C'est ça. Tu fais jamais ça.
Ben oui. Non, jamais. Hein. On lit jamais nos notes mot pour mot. Une chance que j'écris juste des petits points et qu'il faut développer le reste. Mais non, on est très choyés. Écoute, juste cette année, on a 10 projets, là, 6 séries, 4 films. C'est tous des styles différents. T'sais. On parle de WandaVision. Après ça, on va avoir Falcon et Winter Soldier, Loki, Black Widow. On va avoir What If qui va être animé, une série d'animation plus tard cet été. Hawkeye, Shang-Chi, évidemment. Eternal Spider-Man. Puis
Miss Marvel, que j'ai oublié. Il y en a un autre que je ne sais pas si tu savais là, en production. C'est D-Bill and the Roo.
Oui, je sais pas. Ça me dit
quoi, l'histoire de deux gars qui font un podcast. Puis pendant qu'ils font le podcast, il y a un éclair, la foudre, qui tombe sur le serveur de Skype, qui se rend jusqu'à leur ordinateur. Ils deviennent genre des sentinelles transients, mutants. Wow. Alors, une autre idée que je lance comme ça à Marvel, qu'on peut leur léguer pour une petite somme, là.
Ben, étant donné que Kev y écoute, je suis sûr qu'il a pris note déjà. Écoute, c'est un très bon... On verra ce qu'il va dire. Si on reçoit un appel ou bien tout d'un coup que ça fait monter les enchères pour
exactement.
Notre podcast d'ici 2 semaines. On verra.
Exclusivité.
Mais bref, sur ces belles paroles, je pense qu'on va finir cela. Ça fait 1h35, on a battu un record. Et oui. Je vous le dis tout de suite, dans 2 semaines, mais qu'on parle de Falcon et Winter Soldier, on ne va pas respecter le 1h. Il y a beaucoup trop de choses à parler. Et on va couvrir les 6 épisodes. Donc, ça se peut qu'on batte notre record qu'on vient de faire en ce moment. Puis c'est bien correct. Moi, je pense qu'on a eu, même si ça fait 1h35, le temps il a passé super vite. Je pense que c'est des sujets très intéressants. Puis
on vous remercie. On vous remercie tout le monde de nous écouter. Parce que je crois qu'on a un petit succès qui grandit avec même des gens qui nous écoutent aux États-Unis maintenant. Alors, merci beaucoup de votre écoute et du temps que vous prenez pour nous écouter.
On est rendu international, Rudy. Là, il faut aller conquérir l'Europe.
Moi, je vais être content le jour où on va avoir des gens qui nous écoutent au Wakanda.
Ouais, ben écoute, si c'est ça, là, that's it, là. C'est clair que Kev nous écoute si on est rendu là. Mais ben c'est ça, sur ces belles paroles de Rudy, je vous souhaite une belle fin de soirée et on se reparle. On va se revoir dans 2 semaines pour notre prochain épisode, puis on va couvrir du début à la fin Falcon et Winter Soldier. Alors, à plus.
Même batteur, même bat-chaîne.